Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, midi une minute. Bienvenue à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. L'émission On en jase qui arrive avec le soleil, Pascal, qui sort. À l'heure actuelle, on est très heureux de ceci parce que c'est 22 degrés qu'il annonce aujourd'hui. Il a annoncé un 40% de probabilité d'averse, mais c'était surtout un dégagement en après-midi. Alors, ho, ho, ho!
Ben,
ça va être une belle journée!
Je te dirais, Jeff, qu'il y a quand même eu, je sais pas c'était quoi, là, un genre de rayon de pluie assez intense tantôt, là, sur un certain rayon de la ville de Québec. Puis moi, je me suis dit, merde, j'ai laissé ma fenêtre de chambre ouverte. C'est sûr que j'arrive. Et maintenant, j'ai une piscine à l'intérieur.
Non, tu vas être carré.
De chez nous. Hey, il pleuvait tellement. Pendant 15 minutes, t'as pas vécu ça?
Ben non, j'ai pas vu ça. Moi, j'étais dans le studio d'enregistrement en train de sortir des extraits.
C'est ça le problème. À 10h20 environ.
Ouais.
C'était.
Ben oui, parce que je vois ça, la terre dans le stationnement, ta barouette, il y a donc bien de l'eau.
Toutes les voitures sont rendues lavées.
Ah!
On n'a pas eu besoin de personne.
C'est parfait!
Mais c'est, moi, je suis
là.
J'ai l'impression que j'ai une piscine.
Ça. Yes!
Pour se remettre là-dedans, regarder la météo avant de partir de chez soi.
Oui, on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix de surveiller ça, mais une chose est certaine, c'est que quand vous allez surveiller pour les prochains jours, vous allez voir que c'est ensoleillé, une petite baisse de température demain, 14 degrés, mais 18 degrés ensoleillés pour vendredi. Pour samedi, on parle déjà de 17 degrés avec alternance de soleil et nuages, donc pas de pluie à l'horizon à partir de cet après-midi jusqu'à dimanche. On vous présente aujourd'hui un bon bloc d'actualité municipale. Donc, ouais. Après le caucus avec Antonine Iacarini, Mathias Turcotte est allé à un point de presse du maire de Québec. Hey, imagine-toi, là, il ne sait pas pour qui va prendre entre le Canadien et l'Avalanche, chef de la Coupe Stanley.
Non. On avait réglé le cas hier.
Non, on avait réglé le cas hier. Comment, Bruno, là? Let's go, je vais te parler en chambre, là.
Monsieur Marchand.
Moi, c'est un ancien du patron Rocamado. Fait que quand on se parle en gars de patron, on se parle
c'est
par
Jeff
nos pronoms.
Puis Bruno.
C'est ça. Fait que là, Bruno, là, raconte-moi ça. La ville est canadienne. Bon, c'est réglé, mais on va en parler quand même. Mais on va parler de plein d'autres choses, dont justement ce bon bilan financier. On va également avoir Alicia Despins qui va être avec nous à la fin de la première heure. On va revenir sur la primeur qu'on a sortie hier pour Capital Mobilité avec Alicia Despins. Et on va aussi parler de Val-Bélair, projet de logement, 80 logements. Les gens disent « ça commence à être saturé à Val-Bélair ». Je les comprends, c'est pas facile la circulation là-bas. Puis, donc, les gens se posent beaucoup de questions. On va jaser de ça avec Alicia Despins, c'est
sûr. Oui, parce que c'est un projet immobilier quand même de 80 logements sur le terrain du restaurant Patate Plus. et c'est là où ça soulève des inquiétudes aussi.
Là,
tu dis, il va-tu avoir des impacts sur la circulation? Bien, clairement,
oui.
Le promoteur, lui, veut faire son projet, mais pour les gens qui circulent là à longueur de journée. On veut une étude indépendante là, sur la circulation et les mesures pour réduire la congestion.
Exactement, parce que on se souvient, du côté de Val-Bélair, on a annoncé en grande pompe des projets de transport en commun, notamment l'804 qui se retrouve là, le métrobus plus fréquent, etc. C'est parfait. Mais pendant que la ville faisait ça, la CAQ disait on ne fera plus de voies réservées.
Mm-hmm.
Fait que ça ne circule pas mieux. C'est ça le problème. Ça circule pas mieux.
On a des enjeux majeurs de circulation dans Québec, là, la capitale nationale et ses environs. Puis on construit un peu en silo. Est-ce que j'ai l'impression, je pense que je suis capable d'affirmer qu'il manque beaucoup de communication entre les divers projets et tout ça. Écoute, s'il y avait un poste là, à créer ou à recréer ou à travailler pour la ville de Québec, ce serait quelqu'un qui travaille 100% du temps sur la fluidité puis l'annexation des projets de transport.
Vraiment.
Pistes cyclables, voies réservées, RTC, la STL du côté de Lévis, donc la Société de transport de Lévis, tout ce qui est tramway, tout ce qui est... Moi, là, je te mettrais quelqu'un temps plein là-dessus, puis je pense qu'il manquerait
de... Je suis très d'accord avec toi, puis de toute façon, là, pour le développement de domicile, d'appartement, de condo, comme on veut avoir à Val-Bélair, moi, là, je privilégierais l'axe du tramway, là, pour commencer. Il faut densifier la ville. Après, on verra. Là. Mais là, de commencer à densifier comme ça nos banlieues, je suis pas très, très d'accord. J'ai hâte d'entendre Alicia Despins là-dessus, mais je suis pas mal convaincu qu'elle va être de notre avis. Et dans la deuxième heure du show, bon, on va parler avec Alex Aramé. Évidemment, le Canadien, ça commence seulement jeudi, mais les Golden Knights de Vegas et l'Avalanche, c'est ça, ça commence ce soir. Puis ça passe un peu sous le radar.
Ça commence ce soir.
Il y a Vegas contre Colorado, mais Canadien demain. Ça passe un peu sous le radar à cause de la folie du Canadien, mais c'est quand même le Grand Prix du Canada en fin de semaine à Montréal. C'est pas rien. C'est un méchant événement. On a ajouté des sièges. On pense recevoir plus de 100 000 personnes. Alors, c'est vraiment un bel événement. Donc, on va en parler avec Alex Laramé sans faute. Puis, je veux revenir sur Génération Trans. Bonne nouvelle, va être présentée à Québec. Je vous dis pas où, mais ça va être à quelque part proche d'ici.
Proche 17.
J'ai fait exprès pour parler en jargon proche. 17.
Il y a quelqu'un qui a voulu rattraper la balle en se disant qu'il faut avoir une discussion.
Oui, exactement. Je veux qu'on parle aussi du processus de fouille à nu dans nos centres jeunesse. Hier, j'ai parlé à beaucoup de gens. On m'a rassuré à cet effet-là. Donc, je veux en parler. On m'a rassuré pour la capitale nationale. Alors, je veux vous en parler de ça.
Hey, tu m'allumes sur quelque chose que j'ai vu dans les derniers jours puis j'avais mis dans ma petite poche arrière. J'aimerais ça qu'on en reparle aussi, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des centres jeunesse qui, je sais pas, tu sais, ça doit dépendre des jeunes puis des situations qui ont accès à leurs réseaux sociaux puis qui commencent à mettre ça sur TikTok. Je suis tombée là-dessus.
Hey, on va regarder ça plus tard.
Parfait.
Comme on avait fait avec les prisons. Là.
Bon, ben regarde, Jeff,
on sortira des TikTok de centres jeunesse. Et on va terminer l'émission en parlant de Julie White, cette nouvelle candidate pour le Parti libéral du Québec dans Jean Talon. Vous la connaissez parce qu'on l'avait régulièrement en entrevue comme titre de directrice générale de manufacturier exportateur ici au Québec. Et là, elle se relance en politique parce qu'elle s'était présentée en 2022. Mais avant tout ça, Pascal, et avant le caucus d'Antonine Iaccarini, quelles sont les manchettes principales dans l'actualité?
Il y a beaucoup de choses, mais je vais te parler de cet enlèvement-là qui a tenu tout le monde en haleine très tôt ce matin, donc à 8h30. On parlait d'un présumé enlèvement. Il s'était survenu en Beauce, donc à Scott. C'est un homme dans la trentaine qui a été localisé. Il est sain et sauf à Saint-Tite-des-Caps. Ce qu'on apprend, c'est que c'est un homme impliqué dans une organisation criminelle qui a été enlevé, ligoté, tabassé, mais par trois adolescents. Et ça s'est fait dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, événement qu'on nous, on a connu aujourd'hui. Selon les premières informations, c'est vraiment plusieurs individus cagoulés qui entrent de force dans une résidence, pognent la victime, a une arme à feu, force la victime à les suivre, envoie dans le véhicule, puis on prend la fuite. Fait qu'on roule, on roule, on roule. On amène l'homme dans la trentaine dans un chalet de Saint-Tite-des-Caps, puis il a été là, ligoté, tabassé. Coup de massue en passant, qui ont été donnés là, extrêmement violent. Dans le dossier, on dit que la victime aurait déjà été un membre des Dark Souls, c'est club-école des Hells Angels, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Mais il a changé ou aurait pu changer d'allégeance. C'est-tu pour ça là, qu'on a procédé au kidnapping et tout ça? Il y a eu une opération de ratissage et les policiers ont été capables. Et félicitations, là, la Sûreté du Québec qui a agi assez rapidement de mettre la main sur tout le monde. Ils seront rencontrés plus tard dans la journée, les trois hommes qui étaient avec la victime, qui sont détenus pour fin d'enquête. L'effet Christine Fréchette est bien réel. La CAQ gagne 5 points de pourcentage dans un nouveau sondage léger québécois. On s'approche d'une course à trois. Le Parti québécois, c'est toujours à 30 % au sommet. Une petite baisse d'un point depuis le dernier sondage léger. Parti libéral du Québec, on est à 28 % La CAQ ferme le podium à 22 % Pour le Parti conservateur, ben, c'est 3 points de moins et on retombe à 11 % seulement devant Québec solidaire qui ne bouge pas, là, qui est à 8 % Des agents correctionnels de plusieurs établissements carcéraux de la province qui ont refusé de rentrer au travail aujourd'hui. Ils se seraient rassemblés devant différents établissements du Québec. On veut mettre la pression sur la convention collective qui est échue depuis 3 ans. Donc, on a déserté les postes, dont ceux qui occupaient le quart de jour. Ceux qui travaillent la nuit seraient, quant à eux, restés en fonction. Autre grève, cette fois-ci, c'est pour les ingénieurs du gouvernement du Québec. Ça pourrait être pendant 24 heures à compter de minuit ce soir. Et la Ville de Québec aura bientôt 2 nouveaux conseils de quartier pour porter le compte à 32. C'est une requête officielle qui a été déposée en mars dernier.
Merci beaucoup, Pascal Séveille.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini, segment du lundi au jeudi dans l'émission Nord Jazz sur Boulevard 102, de midi à midi 30. Antonine qui est à distance aujourd'hui. Anto, comment vas-tu?
Ça va très bien. Moi, j'ai eu la vague de pluie. Là. Je pensais qu'il y avait une tornade tantôt.
C'était violent.
Le ciel est devenu comme tout noir. Puis la dernière fois que j'ai fait une chronique à Boulevard et que le ciel est devenu noir de même, j'étais dans l'émission du retour et ça a coupé 52 fois pendant la chronique. Donc, j'ai eu un petit stress. Mais là, il fait un beau soleil. Fait que je vais pouvoir faire mon caucus avec vous autres en toute quiétude.
On est heureux. Antonine, une reine est née. Christine Fréchette a un effet sur l'électorat. Honnêtement, je suis pas surpris de ça du tout parce qu'on en parle depuis 2 semaines, moi et toi ensemble, puis avec Pascal. Elle fait bien les choses, elle est rassurante, et voilà que l'électorat se tourne vers elle, du moins en plus grande majorité que quand c'était François Legault.
Ouais, déjà, il y a un effet de nouveauté. Il faut savoir en politique, on dirait plus on connaît nos politiciens, ben moins on les aime. C'est comme ça, hein. La politique, c'est pas facile. Si c'était facile, ça se saurait. Il y a des décisions qui sont pas toujours populaires qu'on doit prendre. On fait des gaffes. Donc, quand on est nouveau, ben l'ardoise est propre. Puis, des fois, on entend des gens dire, voyons, la CAQ peut pas remonter. Les gens sont plus capables. Mais vous voyez, hein, quand on change de chef. Il y a vraiment la possibilité d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour une formation politique. Et je pense aussi au Parti libéral qui a changé de chef il y a quelques semaines également. Ben, ça, c'est comme si c'était un nouveau parti. Ça a changé d'administration. Puis même si les adversaires politiques vont essayer de vous dire c'est le même monde, c'est les mêmes ministres, c'est la bonne vieille CAQ ou ce que les conservateurs essaient de faire au fédéral par rapport au Parti libéral de Mark Carney, c'est le même monde, c'est le bon vieux Parti libéral du Canada. Ben, vous voyez, il y a quand même un effet qui est là. On a vraiment une course à trois qui est en train de se dessiner. Puis moi, ce que je retiens de ce sondage léger, là, qui met toujours le PQ en pole position, il faut le dire, là, qui réussit à se maintenir, c'est que tout peut arriver l'automne prochain. Il n'y a rien qui est fixe pour l'instant. Ça ne veut pas dire non plus que l'effet fréchette va durer jusqu'à l'automne. Mais on voit vraiment que c'est pas coulé dans le béton, loin de là pour l'instant. Si on regarde par rapport au dernier léger, on voit que la CAQ a pris 5 points supplémentaires. Le Parti libéral se maintient, puis le PQ a perdu un petit point. Mais quand on perd un point, je veux dire, on se concentre pas trop là-dessus parce qu'on est dans la marge d'erreur comme telle. Et c'est vraiment l'effet de la CAQ là, qu'on surveille. Qui est assez marqué depuis l'arrivée de Christine Fréchette, qui réussit son pari. Et là, ça, là, ces résultats-là, ça va l'aider à quoi? À recruter des candidats. Parce que tantôt, vous recevez une candidate là, qui va se présenter à la prochaine campagne.
Oui.
Mais des candidats qu'on voit à date, Parti libéral, Québec solidaire, PQ, Parti conservateur aussi, mais la CAQ, on n'a aucun nouveau candidat à présenter.
Ouais, il va falloir présenter un vent de renouveau. Antonine, satisfaction envers le gouvernement. Êtes-vous satisfait 47%, insatisfait 33%, neutre 20%? Quel revirement de situation, ça n'a pas de sens.
Écoute, les insatisfaits ont baissé de 33 points.
Aïe!
J'ai jamais, moi, je n'ai jamais vu ça.
Je suis sidérée parce que s'il y a une chose que j'aurais pas prévue, c'est bien ça, là. La CAQ, les gens disaient haut et fort être tannés, voulaient un vent de renouveau. C'était partout, il n'y a rien qui passait. Toutes les communications, même celles qui étaient quand même professionnelles, légitimes puis bien faites politiquement parlant, étaient tassées du revers de la main. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais
C'est vraiment
regardez
Christine
ces chiffres-là.
Fréchette.
Mais regardez ces chiffres-là, on peut se demander si M. Legault aurait pas dû partir un petit peu avant.
Ben,
Bon,
en
ça,
effet. Mais
on
ça
se le
veut-tu
dit
dire
souvent.
que ça a percolé chez les gens parce que les oppositions ont martelé ça, dire voyons donc, elle présente ça comme un nouveau gouvernement, c'est tous les mêmes ministres, toute la même gang. Mais coudonc, ça a percolé dans l'électorat, ce fameux nouveau gouvernement-là, mené
Oui.
par Christine Fréchette?
Absolument. Puis, tu sais, la communication politique. Ça ne peut pas faire des miracles. Il faut que ce soit basé sur la réalité. Puis je pense que si ça fonctionne en ce moment, c'est parce que c'est basé sur une certaine réalité. Oui, c'est la même équipe, même s'il y a eu des changements au Conseil des ministres. Mais j'ai l'impression que les gens constatent de façon très, très évidente la différence d'approche entre une Christine Fréchette et un François Legault. J'ai l'impression aussi que le contexte mondial, le contexte canadien, ouvre la porte à ce que les électeurs aient davantage envie de politiciens un peu plus calmes. Donc, on ne cherche pas nécessairement la ligne de com' assassine puis les effets de toge. On veut quelqu'un qui démontre de la compétence, un peu nuance aussi. Mais attention avec la nuance. Puis c'est là que j'ai un avertissement à faire parce que pour la CAQ, ça va bien, mais pour les libéraux, il y a des drapeaux jaunes. En ce moment, c'est
Tu le
inquiétant
dis,
pour
toi.
Charles Millière. Donc, si on regarde qui ferait le meilleur premier ministre, Charles Millière n'est qu'à 15 % il est en baisse depuis le dernier léger, alors que PSPP et Christine Fréchette sont à 22 et 20. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, là. Moi, je vois que les partis sont plus populaires que leur chef en ce moment. Mais pour M. Millière, qui vient d'arriver, qui a fait une arrivée qui était correcte, qui avait des bons résultats, on voit qu'il perd un peu déjà de la vitesse. Et là, c'est là que je veux vous parler de nuances en politique. Parce que moi, j'aime ça, la nuance. Mais à un moment donné, il faut quand même être clair sur un certain nombre d'enjeux. À 15 milliards que les gens voient comme meilleur premier ministre, je commence à me demander si M. Millard n'a pas raté en quelque sorte son atterrissage. Ça ne veut pas dire qu'il est trop tard, hein, les campagnes électorales, ça compte également. Mais hier, il a donné encore un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Okay? C'était hier la sortie du rapport sur Churchill Falls, on le sait, Terre-Neuve, cette entente de principe entre Québec et Terre-Neuve sur l'électricité. Et écoute, il a écrit un long tweet, là. Je l'ai lu 4 fois. Okay? Je me disais, what's your point? Tu sais, quand tu dis, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Et là, il nous disait qu'il avait demandé une rencontre avec Mme Fréchette qui attendait toujours une réponse. Okay? Une rencontre pour faire quoi, pour dire quoi, je ne sais pas. Il disait qu'il fallait faire preuve de leadership et de transparence. OK. Je ne vois pas en quoi le gouvernement n'a pas fait preuve de leadership et de transparence là-dedans dans ce dossier-là.
Ben, moi non plus. Honnêtement, François Legault, si on remonte à l'heure, François Legault, il avait été très transparent sur la place publique, a expliqué exactement qu'est-ce que cette entente-là donnerait aux Québécois. Et là, Christine Fréchette, pas plus tard qu'hier en entrevue, elle a dit « j'en ferai pas de concession ». Fait que, bon, c'est transparent pour moi.
Ben, c'est transparent. Puis pour ce qui est du leadership, ben, je m'excuse, mais c'était une priorité de M. Legault. Il a poussé autant qu'il pouvait pour que ça soit fait. Et je m'excuse, mais il restait encore plusieurs années à cette entente-là. Donc, je lisais, puis je me disais, ben là, rendu là, écris rien. T'sais, si t'as rien à dire, tu sais, des fois, là, le gouvernement fait quelque chose, puis c'est bien correct. C'est bien correct aussi comme opposition de ne pas essayer
ouais,
de trouver une
débite. Au lieu d'être une opposition qui dit bravo au gouvernement, puis jouer au cheerleader, tu dis rien dans ce temps-là.
Ben c'est ça. Fait que, bref, je regardais ça puis je me disais, c'est assez symptomatique d'un manque de clarté. Puis je pense que oui, les gens veulent des politiciens plus calmes en ce moment, mais ils ne veulent pas des politiciens, et je ne dis pas que c'est le cas, mais ils ne veulent pas des politiciens vides. Ils doivent faire attention pour ne pas projeter une image de politicien qui donne des phrases creuses, mais qu'on ne comprend pas c'est quoi le fond des choses. Ça prend une certaine clarté. Puis il faut aussi faire un peu de politique. Monsieur Milliard s'est fait enfiroiper la première semaine avec les questions de langue. Bien, lui aussi, il faut qu'il se mette un petit peu en mode attaque. Là. C'est bien beau la politique autrement, mais les gens doivent comprendre c'est quoi la différence entre ton offre politique et celle des autres. Donc, drapeau jaune pour le Parti libéral. C'est pas des bien bonnes nouvelles non plus, ce sondage-là, pour Éric Duhaime, là.
Hey non, justement, je voulais t'en parler parce qu'il est le chef, je vais le dire comme ça, dont les gens ont l'opinion la plus défavorable. Il touche au-dessus de 60 %. Et là, le PCQ qui retombe dans vraiment un parti régional Chaudière-Appalaches à 11 % des intentions de vote, la pente m'apparaît impossible à remonter.
Puis surtout quand tu dis, puis qu'on entend Antonine dire, puis qu'on voit les résultats dans le sondage, que le chef, c'est super important pour le parti.
Exactement.
Il y a des questions à se poser.
Ben, en fait, ça dépend toujours des objectifs. Moi, je pense qu'Éric Duhaime, son objectif pour la prochaine campagne, c'est pas de gagner le gouvernement, c'est de faire son entrée et de pérenniser, donc rendre plus permanente son offre politique, son parti politique. Il a réussi à rester pertinent en n'étant pas à l'Assemblée nationale. C'est une force politique incontournable maintenant. C'est très réussi pour lui. Mais éventuellement, il va devoir se poser des questions. Parce que, oui, les gens veulent... Moi, quand je pose la question à... Il y a 80 % du monde à qui je parle qui dit que ce serait bien quand même qu'il y ait quelques députés du Parti conservateur, même si les gens ne sont pas conservateurs comme tels, ne serait-ce que pour la diversité d'opinion, puis d'avoir une représentation d'un quasiment 15 % de gens, là, ça rebaisse un petit peu, mais de 15 % de gens dans leur élection qui ont voté pour lui, là, donc c'est important. Mais en même temps, les gens aiment ça gagner. T'sais, voter pour des partis d'opposition, ça arrive, là, les gens font ça, mais il y a quand même toujours une part de vote stratégique. Puis là, les gens se disent, OK, mais moi, si je veux battre tel parti, c'est qui mon meilleur parti pour lequel voter? Tu sais, il n'y a pas juste les valeurs là, qui drive les intentions de vote, il y a aussi la stratégie. Donc, si les gens ont l'impression que ça ralentit puis qu'il n'y a pas de possibilité pour M. Duhaime d'avoir ben, soit le gouvernement ou vraiment un groupe fort à l'Assemblée nationale, ça se peut que certains décident de miser sur un autre cheval. Puis, la deuxième question qu'il va devoir se poser, c'est éventuellement... Est-ce que je suis le meilleur chef pour ma formation politique? Il a fait tout un travail. M. Duhaime travaille très, très fort. Moi, je n'ai pas énormément de récriminations à lui faire. Mais pour monter à la marche supérieure après, quand on voit à quel point on polarise dans la population, ben, c'est des questions à se poser. Puis pour l'instant, il n'y a personne qui, en tout cas, à moins que vous ayez des idées, moi, je n'ai pas d'idée d'un autre conservateur qui pourrait prendre le relais.
Non, vraiment pas.
Donc, il va falloir qu'il travaille aussi, puis s'il ne travaille pas juste pour son intérêt personnel, mais celui aussi de son option politique, qu'il mette des gens de l'avant, des candidatures intéressantes qui pourraient éventuellement aussi être une relève pour lui.
Oui, non, t'as raison. Puis, tu sais, pendant que tu parlais, je suis allé voir sur Québec 125, parce qu'avec des nouveaux sondages, ça bouge tout le temps. Et je suis allé voir des 4 circonscriptions que moi, je regarde comme clés pour le PCQ. Et il y en a 2 là, qui viennent de perdre là, aux mains du PQ, c'est-à-dire Charlebourg et Lévis. Pour ce qui est de Lapeltrie et Chauveau, ils les gardent encore, mais on voit que autant le PQ que le PLQ viennent le chauffer davantage. Alors, tu sais, dans ces fameux votes à 3-là, ou à un moment donné, tu vas choisir quelqu'un justement pour gagner. Le PCQ va être dans le trouble tantôt, là.
Bien, écoute, ça dépend aussi. Il y a un autre facteur. Les chefs, ça pèse lourd dans la balance, les bannières politiques, mais il y a aussi quand même un petit pourcentage qui est attribuable aux candidats. Donc, si M. Duhaime présente des bons candidats dans certains comtés, ça peut faire bouger la balance. C'est sûr qu'on entend la rumeur de Gilles Lehouillier, là, tu me parlais de Lévis.
Ouais.
Je ne sais pas si ce serait bien accueilli ou pas. Monsieur Lehouillier s'est fait élire autant comme autant quand il s'est présenté comme maire de Lévis. Il était apprécié, même si il y a des problématiques financières maintenant qui sont mises en lumière. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être une candidature vedette quand même.
Oui, en effet. Ben écoute, les gens de Laval, on les interviewait dans un stationnement après que la femme de Gilles Vaillancourt ait flushé des liasses d'argent dans les toilettes. Puis ils disaient, bon, mère, la mère Vaillancourt, j'ai pas, mes taxes sont pas élevées. Fait que ça se pourrait qu'il vote pour Gilles Lehouillier aussi.
Oui, des fois, ça peut un peu nous décourager. Puis dans son âge, dernier petit commentaire, c'est sur QS, là, qui encore une fois, bouge pas vraiment. Malgré quelques bons coups, ils ont réussi à faire parler d'eux dans les dernières semaine avec les impôts des riches et aussi la question des féminicides. Mais pour l'instant, ça ne change pas la donne.
En effet, Antonine Iacarini, Pauline Marois veut changer le monde. On l'écoute.
Avec mon conjoint, on a réfléchi depuis l'automne dernier. Hein, c'est pas la génération spontanée. Et puis, je me suis dit, il faudrait aborder le tout d'une façon plus globale, avec une véritable volonté politique et départisaniser un peu cette question-là. C'est comme ça que vous retrouvez dans les signataires Michel Courchesne, Françoise David, Marguerite Blais, Véronique Yvon, qui, dans le fond, disent oui à ce sommet. Oui, à cette idée de nous réunir.
Pauline Marois marchait avec son conjoint dans Montréal, Antonine, puis crime, est tombée sur des itinérants. Hein? Elle a vu ça pour la première fois de sa vie, puis là, elle s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ah! On va réfléchir. Une tonne d'anciens politiciens là, qui sont pas branchés du tout sur le monde à l'heure actuelle, on dit « Hey, on va réfléchir. On va faire un sommet sur l'itinérance. » Ben Pauline et tes petits amis, ça s'est fait, le sommet sur l'itinérance en 2024. Puis là, on est dans le plan d'action. Puis on crée des programmes de logement supervisés. Puis on a amélioré P38 pour prendre des itinérants en toxicomanie puis les amener à l'urgence psychiatrique puis les amener en thérapie. Puis on créer plus de logements abordables et sociaux dans les grands centres urbains. Hé, hey, on est en action, Pauline! Pourquoi faudra encore réfléchir?
Oui, je comprends ta réaction et tu as raison hein, qu'on est rendu aussi à agir, mais moi, j'avoue avoir un petit faible pour les grandes messes, OK? Puis là, c'est là que je me fais traiter de vieille parce que le PQ, c'était comme un running gag. Ça a toujours été... Il collait des sommets, des grands rendez-vous,
colloques.
On fait de la réflexion. Mais un n'empêche pas l'autre en passant, parce que c'est vrai que c'est des enjeux, ce sont des enjeux qui demandent une coordination. T'sais, tantôt, je vous écoutais parler de mobilité à Québec. Là. Je vous disais, c'est mal coordonné. Ben, puis là, on se dit, il faudrait réfléchir ça dans une globalité. Mais c'est vrai pour plusieurs enjeux, soit dit en passant. Puis je suis la première à appuyer certaines de ces idées-là. Sur l'itinérance, je suis d'accord avec toi. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Puis je comprends l'objectif qui est de mettre l'enjeu à l'agenda électoral. Parce que là, on veut que les partis se commettent. Là, vous allez voir ça là, dans les prochains mois, là. Hein, ça, ouais, chacun
ben
va
là,
pousser sa priorité.
T'as déjà le PQ qui s'est commis en disant 50% moins d'itinérance, on va continuer à pousser dans l'optique des logements supervisés, puis de créer justement avec ces logements supervisés-là des espèces de quartiers ou des résidences comme les HLM qui a un parc dans le milieu, là, que ça va
bien,
être des
là.
Itinérants avec des services sociaux. Moi, je trouve que c'est une super belle proposition.
On est d'accord avec ça, mais tu sais, il y a quand même des choses qui ne sont pas réglées. Puis tu sais, je pense notamment à la question de qui est responsable de quoi. C'est dans plusieurs ministères et c'est dans plusieurs paliers de gouvernement.
En effet.
Les municipalités, ça fait plusieurs années qu'ils disent qu'ils sont un peu pris avec ça, mais qu'à la base, c'est même pas supposé d'être eux. Mais il y a ça.
Il a commencé à pleuvoir. cette fois.
Antonine a coupé, on va essayer.
Coupe son écran d'un coup que la vidéo, si ça demande moins d'Internet, on va peut-être récupérer Antonine.
Ça a bien l'air qu'on a perdu notre chère Antonine.
Est-ce que tu voulais que je l'appelle?
Oui, ouais, appelle-le donc, on finit ça par téléphone. Donc, on parlait justement de sommet et de sommet demandé par l'itinérance par Pauline Marois. Puis, en attendant également, je vais vous faire écouter... non, je vais attendre Antonine. On va parler aussi, je vais vous mentionner qu'il y a évidemment l'UMQ, c'est-à-dire l'Union des municipalités du Québec, donc l'ensemble des maires, qui demande aussi un sommet des États généraux concernant la fiscalité et les infrastructures. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous a fait jouer l'extrait de Monique-Jérôme Forget qui parle qu'il n'y aura plus d'eau pour nos petits-enfants. Et également, y a une demande aussi en ce qui a trait à des sommets ou des États généraux parce que il faut vraiment, vraiment, vraiment... réfléchir au niveau du Québec, ça serait dur de passer à l'action. Donc, évidemment, là, on demande aussi là, des états généraux là, du côté... laissez-moi le trouver. Donc, du côté de la CSQ en éducation. Mais encore là, en éducation, on connaît un petit peu là, la problématique concernant justement le manque de main-d'œuvre et la centralisation. On revient en Ténin. Hey, Charanto, t'avais perdu!
Coudon, y a-t-il une tornade?
D'après c'est exactement moi, ce que j'ai dit. D'après moi, il pleut Sainte-Foy.
Hey, Anto, on continue dans le sujet, puis je veux te parler parce qu'il y a trois sommets qui sont demandés. Le deuxième, c'est les municipalités avec les infrastructures et la fiscalité. Je laisse entendre Samuel Poulain ce qu'il avait dit à sa sortie, justement, du colloque de l'Union des municipalités la semaine dernière.
Mon constat, de mon côté, là, c'est réellement de trouver des solutions sur le coût des infrastructures. J'arrive du ministère de l'Économie. Nos entreprises québécoises du secteur privé veulent faire affaire avec les municipalités, veulent faire affaire avec le gouvernement du Québec, mais tous les deux, on doit travailler sur l'enjeu des coûts. Alors, avant même de transférer de l'argent aux villes, on se doit de se questionner.
Anto, Samuel Poulain a dit, moi, avant de commencer à faire des programmes où on va aller taxer davantage les gens, on va s'asseoir et on va regarder à réduire les coûts des infrastructures. Les maires, ils veulent-tu un sommet juste pour pouvoir nous taxer davantage?
Non, je pense pas. Puis justement, quand j'écoute ça, dire avant de penser à monter les taxes, on doit travailler sur les coûts. Oui, mais justement, il faut asseoir tout le monde autour de la table. Il y a quelque chose qui marche pas hein, avec la fiscalité des municipalités. Puis entre la relation entre le gouvernement du Québec fédéral et municipal, les municipalités sont pas... les pouvoirs sont pas clairs. Le gouvernement traite les municipalités un peu comme une partie prenante comme une autre. Il y a les OBNL, il y a les municipalités, il y a les groupes communautaires, il y a le patronat. C'est pas ça, les municipalités. Fait que moi, je pense que c'est justifié, à un moment donné, de faire une grande discussion. Est-ce que ça va mener à des hausses de taxes? Ben, si les gens trouvent que c'est pas une bonne idée, ils vont y aller au sommet, puis ils vont expliquer puis exposer pourquoi c'est pas une bonne idée. Avant d'arriver avec des solutions, béton, faut prendre le temps de se parler. Il y a aussi la CSQ qui demande des états généraux sur l'éducation. Encore une fois, l'éducation, sujet super important, multi-dossiers qui touchent à plein de choses en même temps. On demande beaucoup, beaucoup de choses à nos écoles. Hein. Il faut que je fasse la santé publique, la prévention, le travail social, la sécurité publique... Moi, je trouve qu'on serait dû pour ça. C'est juste que là, je regarde toutes les demandes d'États généraux, puis je me dis, ça va falloir faire un calendrier, là, la gang, parce qu'on va manquer de centre des congrès pour recevoir tous ces sommets-là. Évidemment que la campagne électorale s'en vient et que les partis vont prendre des engagements dans ces dossiers-là. Et je constate que la CAQ, ce n'est pas leur bague de faire des États généraux puis des grands sommets. Ils aiment ça faire des petites annonces ciblées. Sont bons en communication politique. Là, dans la dernière année, certains diraient un peu moins, mais c'est plus ça leur style. Mais à un moment donné, je pense que pourquoi il y a autant de demandes d'États généraux puis de sommets, c'est parce qu'on n'en a pas fait assez dans les 8 dernières années. C'est un équilibre. On ne peut pas juste
Ouais, mais je t'emporte à foi avec toi. Moi, je pense qu'on en a fait, mais on n'a juste pas fait assez d'actions qui en a découlé. Je vais te donner l'exemple en éducation. On a rencontré les dirigeants des centres de services scolaires, on a rencontré les enseignants, on a rencontré les directions scolaires. Puis un des constats qui est ressorti, c'est de décentraliser le pouvoir. Puis Bernard Drinville a fait complètement le contraire. Il a centralisé le pouvoir. Puis moi, je suis convaincu que c'est là la problématique. Fait que c'est pour ça que moi, je suis tanné de ces états généraux-là.
Quand on fait des réflexions, il faut que les gouvernements les écoutent.
Exactement.
T'as absolument raison. Mais en même temps, le petit travail en silo, là, puis chacun fait des...
sais, il y a beaucoup de programmes, il faut le dire, là. Le gouvernement annonce un programme, puis quand vient le temps d'appliquer sur le programme puis de le déployer, ça ne marche pas en tout avec le terrain. Donc, moi, je pense qu'on peut faire mieux. Il faut trouver le juste équilibre entre des grands sommets de réflexion avec tout le monde autour de la table, puis des petites actions ciblées. T'sais, tu comprends, il y a comme un équilibre qu'on n'a pas encore trouvé, j'ai l'impression. Puis pour ce qui est de l'itinérance, ben écoute, moi je pense que ça doit rester un enjeu de campagne, que ce soit pour des états généraux, un sommet ou d'autres actions, il faut maintenir la pression, parce que c'est un enjeu qui malheureusement, c'est rare que c'est dans la priorité, dans les trois premières priorités d'un gouvernement, mais quand tu habites dans les municipalités où tu vois la situation se dégrader, je pense qu'il faut maintenir la pression puis que ce soit un enjeu de campagne.
Ah, je suis très d'accord avec ceci, mais justement, peut-être je termine là-dessus. Moi, la campagne électorale, je le vois comme les partis politiques qui vont se positionner. Puis là, je vais reprendre les trois thématiques qu'on vient de parler, les demandes d'États généraux. Éducation, itinérance, fiscalité et infrastructure pour les municipalités. Puis moi, je m'attends à ce que les partis politiques se positionnent. Fait que c'est pour ça que des états généraux, moi, pour le moment, je vois pas d'avantage. Je vois bien plus un avantage à demander aux partis politiques de se positionner.
Oui, mais tu sais, moi aussi, je t'emmène là-dessus, mais des fois, les partis politiques, surtout ceux qui n'ont pas accès à des ministères là, qui sont dans l'opposition, ils vont prendre des engagements avec leur niveau de connaissance, mais c'est bien aussi de se nourrir de quelque chose et du terrain. T'sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de sain dans... Puis ils peuvent faire des rencontres, mais d'avoir une réflexion qui est poussée pour que les plateformes électorales soient bien faites également, puis que ce ne soit pas des engagements sur le coin de la table qui flashent là, quand on fait une annonce. En tout cas, bref, on n'a pas réglé
ça. Non, on n'a pas réglé ça, en effet, mais je me dis, si tu es un bon politicien d'opposition... T'as pas besoin d'attendre un état général. Prends ta petite valise, prends tes pieds, puis va rencontrer les gens sur le terrain. Puis là, tu vas pouvoir proposer tes pistes de solution. T'sais, vas-y rencontrer, puis là, je le nomme, là, Éric Boulay à l'Aubrivière. Vas-y rencontrer l'organisme en itinérance à Montréal, en Abitibi-Témiscamingue. Va dans les écoles, va parler à des directions, va parler à des enseignants. Il n'y a rien qui t'empêche ça pour pouvoir faire ta propre opinion, justement. Puis peut-être bien innover puis sortir des sentiers battus.
Je suis d'accord avec toi. On termine sur un accord. Bravo.
C'est malade, c'est magique. Antonine Iacarini, on se parle demain?
À demain.
Hey, salut, merci beaucoup. Antonine Iacarini, que vous pouvez entendre sur nos ondes de midi à 12h30 à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. On se fait un gros bloc d'actualité municipale. Retour, Pascal CV.
Oh oui, parce qu'il y en a.
OK, oui. Donc, bloc nouvelle avec Pascal CV. Mathias Turcotte qui revient d'un scrum, c'est-à-dire une conférence de presse improvisée du maire Marchand. Et Alicia Despins qui sera là également pour sa chronique politique municipale. On va jaser de Québec à l'émission On en jase.
Ce qui vient de rentrer sur les réseaux routiers, Jeff, par exemple, c'est un incident sur Dufresne-Montmorency-Est à la hauteur du boulevard Henri-Bourassa. Il y a une voie de gauche qui est complètement bloquée. Il y a des débris, faites attention. Oui. Je sais pas ce qui se passe sur les réseaux routiers ces temps-ci, mais de la grenaille, de la cochonnerie.
Vraiment?
Il y a un sac de chips qui m'a percuté le pare-brise avant aujourd'hui, puis je me suis dit, Colin, chance, c'est pas quelque chose de lourd.
C'est-tu des chips all dress au moins? C'est mes préférés.
T'as pas eu le temps de voir là, ça. Mais tu fais un saut pareil.
Mais on va demander à Mathias Turcotte, c'est quoi sa sorte de chip préféré. Et en passant, non, on ne fera pas jouer la chanson de Max Larouche midi. On vous épargne.
Bon, franchement, pauvre petit. Ça a marché jusqu'à maintenant, ça fonctionne?
Oui, dans des commentaires comme le petit Jérémy avait du talent.
Jean-François, va-t'en en pause. Va-t'en en pause. Va-t'en en pause.
Est-ce que Max n'a pas eu son rêve d'enfant?
Va-t'en en pause.
On en jase sur Boulevard 102.
Pas. J'ai pas besoin de parler de ça longtemps. Comme quoi, l'hiver a été difficile pour votre véhicule. C'est rough, hein? Ben, c'est le moment idéal pour vérifier ton véhicule puis s'assurer de rouler en toute sécurité cet été. Puis on le fait avec qui? On le fait avec Pièces d'auto économiques. Pour la mise au point de ton auto, c'est le leader au Québec pour les pièces d'auto et accessoires. C'est vraiment la place pour trouver tes pneus, tes pièces d'auto au meilleur prix. Anecdote, j'ai commandé les miens chez Pièces d'auto économiques. Ça fait des années que je fais affaire avec eux. Et on n'en parlera pas trop longtemps, mais en tout cas, ça a l'air que je savais pas, moi, qu'il y avait des pneus d'hiver, des pneus d'été, des fois, qui ne pouvaient pas être de la même taille. Puis les miens, ben c'était le cas. Fait qu'ils m'ont offert un super service. Ils ont tout changé. Et avec gentillesse et rapidité, toujours les meilleurs prix. Pièces d'auto économiques, je vous le dis, je vous le conseille personnellement, avec cœur, et c'est sincère. Si vous voulez des promotions, bien, il y en a. Obtenez 15% de rabais sur les disques de freins de première qualité Brake Max à forte tenue en carbone. C'est pour un freinage plus en douceur. Puis aussi, tu as 20 % de rabais sur les plaquettes de frein Bosch en ce moment. Surtout, et ça, c'est la nouvelle entente, la belle chose à annoncer, c'est qu'on a maintenant en inventaire les produits d'origine Mopar et B-Pro pour les propriétaires d'auto Chrysler, Jeep, Dodge. Par exemple, tu cherches une pièce d'origine du fabricant pour ton Dodge Ram, bien là, tu commandes chez Pièces d'auto économiques directement. Prends note que leur magasin sur Charest vous accueille maintenant aussi samedi, de 8h à midi. Pièces d'auto économiques, c'est la référence au Québec. C'est 8 magasins, toutes des grandes marques, des pièces neuves, garanties, un site transactionnel, toujours de qualité, toujours moins cher. Commandez sur Pièces d'auto économiques.
À la recherche d'un condo à louer à Sainte-Foy ou à Lévis, faites confiance.
Émission d'Enjas au Boulevard 101 de midi à 14h. Le retour de Denis de 14 à 18 avec Denis Audrey et Véro. Pour nous joindre, 418-971-1021, blvd.fm, c'est notre web radio, c'est les meilleurs moments qui s'y retrouvent. blvd 102.1, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. Téléchargez-la, c'est gratuit. Et du côté également du haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez blvd 102.1 ». On apparaît dans vos oreilles. Donc, plein de façons d'écouter Boulevard 102.1. Qu'on regarde nos petites statistiques de streaming, mais tabarnouche, ça va bien. On a de plus en plus d'auditeurs. On est très, très, très heureux de constater le tout. Pascal, avant qu'on fasse notre gros bloc d'actualité municipale avec Mathias Turcotte et Alicia Despins, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Justement, vu qu'on en parle avec Mathias dans quelques instants, permets-moi d'évacuer un petit peu plus de nouvelles au niveau du municipal. Je vais me concentrer sur une nouvelle un peu fascinante, spectaculaire qui s'est passée ce matin parce qu'on apprenait par la police qu'il y avait eu enlèvement du côté de la Beauce, du côté de Scott. On a eu plus d'informations au courant des dernières heures, comme quoi l'homme dans la trentaine qui a été enlevé par une gang d'adolescents avec des cagoule et tout ça. C'est un homme criminalisé qui a été enlevé, séquestré. On est parti de Scott-en-Beauce, on l'a kidnappé dans une résidence et on l'a retrouvé du côté de Saint-Tite-des-Caps. Plusieurs individus, comme je vous disais, qui l'ont fait entrer de force dans un véhicule et dans la résidence où il a été tabassé, violenté, même à coups de massue. Il y avait des armes à feu dans tout ça. Grosse situation quand même. Et les ravisseurs ont été arrêtés par la police. Donc, ils devraient comparaître là, cet après-midi et ils sont sous enquête également. Mm-hmm. Donc, on les détient là, au poste de police. C'est une opération de ratissage qui a été effectuée puis qui a surpris un peu tout le monde.
Très invraisemblable comme situation.
Ben oui. La victime, par contre, est connue, comme je te disais, du monde criminalisé, entre autres pour avoir été un ancien des Dark Souls. Ça, c'est le club-école des Hells Angels. Est-ce qu'il a changé d'allégeance? On présume là, en ce moment, selon certaines informations. Est-ce que c'est ça qui aurait mené à ce kidnapping-là? Écoute, là, moi, je peux pas t'en dire. Va falloir attendre l'enquête en cours. Sinon, ce qui nous concerne également, c'est Julie White qui refait le saut dans Jean Talon. On lui parle un peu plus tard
en
à l'émission.
En studio avec nous à 13h30.
Exactement. Il y a aussi le projet immobilier 80 logements prévus sur le terrain du restaurant Patate Plus à Val-Bélair qui soulève beaucoup d'inquiétudes chez plusieurs résidents. On parle des impacts anticipés sur la circulation. Bien sûr, le promoteur veut construire un immeuble de 4 à 6 étages avec des commerces au rez-de-chaussée. Ça inclut le restaurant qui existe déjà. Mais il y a une citoyenne qui a lancé une pétition parce qu'on veut une étude indépendante sur la circulation et les mesures pour réduire la congestion. C'est quand même plus de 1600 personnes qui l'avaient signé en date d'hier. Ça continue d'augmenter. On estime que les enjeux de circulation là, sur le boulevard puis 12 doivent être corrigés rapidement. Beaucoup de gens qui nous écrivent aussi depuis qu'on en a parlé.
Hey, j'ai une question vraiment très sérieuse pour toi. Tu prendrais-tu ça au troisième ou au quatrième étage plutôt qu'au premier ou au deuxième? Moi, il me semble au premier ou au deuxième, ça s'enfrite tout le temps. Je suis toujours rendu à manger une poutine.
Moi, je le mets en bas, c'est sûr, parce que tu peux pas l'avoir en haut non plus.
Tu veux Non, patate plus en bas, mais toi, tu te mets où si tu habites dans
le plus haut possible?
Le plus haut possible.
Le plus haut possible.
Comme moi. Tu veux pas l'odeur de frites.
S'il vous plaît, un canal de climatisation et de ventilation différent.
Hey, parce qu'imagine, tu es dans ton salon, tu es en train d'écouter le Canadien contre les Hurricanes, puis l'odeur de patate plus monte, c'est une grosse poutine assurée.
Si tu penses que je manquais de résilience dans la vie, là, moi, j'ai travaillé dans un casse-croûte très jeune.
Oui.
Mais du genre, tes premières brosses, puis le lendemain, tu travailles sur l'heure du midi. Il fallait vraiment beaucoup de... Il fallait se contenir.
Ouais, c'est ça.
Il fallait se contenir.
Vraiment.
Que ça, moi, j'ai
pas ça, un casse-croûte puis chocolat favori que j'aurais pas été capable de travailler. j'en aurais mangé du cornet. Ça aurait été épouvantable. Mon plus vieux, d'ailleurs, Elliot, travaille au McDo. Je sais pas comment il fait. Des fois, là, il peut faire 1000 Big Mac.
Il doit s'tanner, tu sais, en même temps, je dis ça. Je n'attendais pas de la poutine. Là. En plus, c'est la saison qui commence avec les petits casse-croûtes.
Oui, c'est parce qu'en plus, à 18 ans, là, tu manges 8 Big Mac puis tu grossis pas. Là.
Ah, ton cholestérol puis tout ça, par exemple.
Ouais, je le sais.
Mais ils ont plus de chances.
Vous êtes fait fort, les amis.
Hey, l'effet Christine Fréchette, c'est bien réel. La CAQ a gagné 5 points de pourcentage dans un nouveau sondage léger québécois. Puis on s'approche d'une course à 3. Il y a le PQ qui est toujours au sommet, 30 %. On est en baisse d'un point, par exemple, depuis le dernier sondage. Le Parti libéral du Québec stagne à 28 % selon le sondage léger. La CAQ, par contre, ferme le podium à 22 %. Parti conservateur, on a perdu 3 points. On retombe à 11 % et Québec solidaire, ça ne bouge pas à 8 % Vraiment, Christine Fréchette chauffe Paul Saint-Pierre Plamondon en ce moment dans les intentions de vote. Il y a des grèves, Jeff, des agents correctionnels de plusieurs établissements carcéraux de la province qui ont refusé de rentrer au travail aujourd'hui. Les ingénieurs aussi du gouvernement du Québec seront en grève pendant 24 heures à compter de minuit. Moyen de pression parce que, bon, on veut prévenir du côté de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec que ça va même s'intensifier graduellement, les moyens de pression jusqu'en juin, convention collective des ingénieurs qui est échue depuis mars 2023.
On passe à l'actualité municipale avec Mathias Turcotte.
Le midi, on en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14 ans.
Le maire de Québec a décidé de faire ce qu'on appelle dans le jargon une conférence de presse improvisée, c'est-à-dire un scrum.
Ben oui, puis il y a plein de choses qui se ressortent de ça. Moi, je me suis retenue pendant mon bulletin de nouvelles parce que je savais qu'on allait parler à notre collègue.
Exactement. Et je vais faire cette critique-là pour commencer. Ce que l'opposition officielle ne fait pas assez souvent, se placer et répondre aux questions. Tu sais, le maire Marchand, il y a beaucoup de ses décisions que je suis en désaccord, mais une chose est sûre, il fait face à la musique. Et ça, je le salue pour être un maire qui se tient en retrait, mais non, il parle régulièrement aux journalistes. Puis les journalistes sur la scène municipale à Québec font un excellent travail. Puis ça tombe bien parce qu'on en a un, nous autres. Mathias Turcotte. Mathias, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien.
Le maire était-il avec son gilet du Canadien? Le maire était heureux? Il y avait-tu des liasses d'argent qui sortaient de ses poches vu qu'il y a des surplus? Il était comment, notre maire?
Il était de bonne humeur ce matin. Ouais. Puis je veux dire, on a eu des belles nouvelles concernant les résultats financiers annoncés hier. C'est justement pour ça qu'on faisait un scrum ce matin. Parce qu'habituellement, on fait un point de presse préconseil ou qu'on permet aux journalistes de traiter des différents sujets d'actualité. Hier, on n'a pas pu le faire étant donné que c'était des résultats financiers. Donc, on s'est repris ce matin et puis tu fais bien de le souligner. Le maire aurait très bien pu dire « Ben, je réponds pas aux questions cette semaine. »
Exactement.
La majorité des élus, c'est ça qu'il aurait fait. Par
contre, plein ça.
Il est venu au bat comme il fait souvent.
Là, Mathias, là, moi, Respect citoyen me dit hier « On taxe trop à Québec!
Oui. »
C'est vrai?
Ben, c'est un surplus de 78 millions qu'on a eu sur l'année 2025. Donc, c'est sûr que... Puis on est rendu avec 123 millions en excédent de fonctionnement actuellement. La question est ressortie. Est-ce qu'on taxe trop? Selon l'opposition, oui. Selon le maire Marchand, la réponse est non. Même le maire Marchand est allé plus loin en disant que l'argument de dire « on a un surplus, il faut baisser les taxes ou du moins les maintenir comme elles sont » ne se plaide pas du tout. Selon lui, je vous laisse l'entendre.
Oui, mais c'est un argument qui ne se plaide pas au sens où ce qu'il faudrait continuer dans la réflexion, si on veut être cohérent, c'est de dire « OK, il aurait fallu savoir combien on va avoir de droits de mutation. » Je ne veux pas vous dire « ouais, on a prévu ça serré, là. » Fait qu'on est en déficit. Un, on n'a pas le droit de faire de déficit. Deux, ça voudrait dire piger dans des réserves. Ou ça voudrait dire, à la suite de ça, payer moins comptant nos immobilisations. Fait que c'est pas qu'on taxe trop. C'est que par les bonnes nouvelles que nous avons, ça permet d'aller moins sur la dette. Ça permet d'utiliser des sommes pour faire plus d'infrastructures. On n'a jamais fait autant d'infrastructures à Québec.
Non, je suis d'accord avec lui, il faut le voir sur un horizon plus long terme. Tu sais, je l'ai calculé, le surplus que la ville emmagasine, 142 millions là, depuis 2 ans, bien, ça correspond à peu près à 0,5 % de taxation, là, si on regarde au niveau des revenus de la taxe. Alors, tu sais, puis là, peut-être que je vais être à l'encontre des auditeurs et textez-moi 418-971-1021, mais j'aime autant mieux qu'on continue à emmagasiner puis qu'on continue à diminuer la dette ou justement payer des infrastructures comptant puis qu'on arrive peut-être à la fin de ce mandat-là de 4 ans. Puis là, vous allez me dire, ça va être très électoraliste sûrement, mais là qu'on donne une diminution ou encore t'sais, quelque chose de plus stable aux citoyens que juste un 0,5%. Là. Donc, moi, je suis très d'accord. La seule critique que je fais, c'est encore hier, je vois la redistribution de certains surplus. Encore 10 millions, Pascal, sur la mobilité active. T'sais, la lubie de la mobilité active, là. On se plaint qu'on manque d'argent de nos infrastructures. On peut-tu mettre ça ailleurs que dans la mobilité active? C'est la seule critique que je fais par rapport à ça.
Puis l'opposition a souligné hier également qu'on devrait investir davantage dans les infrastructures au lieu justement de certaines priorités.
Ben,
comme
de
par
se
exemple,
créer d'autres besoins. T'sais, on n'est pas à la création de besoins. On est à, puis là, je vais reprendre ce que le maire Junot nous dit toujours, Pascal, quand il est en ordre avec nous autres. On est à travailler sur ce qui existe. Là. T'sais, c'est, puis ce qui existe qui est plate, là, mais les tuyaux. C'est ça.
Puis, Mme Marchand, pour finir tout ça sur les taxes, a aussi parlé de la cotation. La cote de crédit de la ville, qu'avoir une bonne stabilité, puis une augmentation de taxes qui reste stable, semblable d'année en année, qui vient se coller à l'inflation, puis qu'on on semble en bonne gestion des finances, c'est bon pour la cote de la ville également.
Il n'y a personne qui veut vivre ce que les villes ont vécu. Là. Gel de taxes ou taxe, hausse de taxes d'1 % par une année, paf, 7,7%.
Puis le après, là, ouais. Gilles Laulier, en ce moment, on se rend compte de plein d'impacts, des dommages collatéraux épouvantables.
Exactement. Hey, itinérance, je faisais une blague avec Antonine Iaccarini tout à l'heure. J'ai dit, hey, Pauline Marois s'est levée, puis elle a dit, hey, ça existe l'itinérance, on va faire un sommet. Puis là, ben, elle a parlé à plein de vieux politiciens comme Michel Courchain, puis Véronique qui vont. Peut-être tous des gens pour lesquels j'ai un grand respect, soit dit en passant. Là, c'est des politiciens qui ont laissé une belle marque sur le Québec. Mais il en pense quoi, Bruno Marchand? Parce qu'on a fait un sommet de l'itinérance en 2024 à Québec. On est encore à l'étape de on jase.
Mais tout d'abord, le maire Marchand pense que ça peut être une bonne idée. Le maire Marchand voit positivement aussi que les partis politiques semblent de plus en plus s'activer dans le dossier de l'itinérance. On a vu Christine Fréchette faire des annonces dernièrement, PSPP prendre littéralement, faire une promesse électorale qui baisserait massivement l'itinérance au cours d'un premier mandat. Donc, le maire Marchand voit ça d'un œil positif. Par contre, par rapport à la proposition de faire un sommet sur l'itinérance, le maire Marchand ne dit pas que c'est une mauvaise idée, mais ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas suffisant simplement faire un sommet.
Un sommet, faire un sommet, c'est inutile. Mais ça ne peut pas être juste une grand-messe, on se félicite, on se tape dans le dos, puis après ça, il ne se passe rien. Il faut absolument que même d'ici le sommet, et c'est pour ça que Mme Marois a dit que ça prend une volonté politique clairement exprimée des partis. Pas juste de dire « oui, je m'engage à faire un sommet, puis oups, je suis content, je repousse en avant, comme vous le dites, puis dans, j'aurai la paix pour 10 mois ». Non, non, vous vous engagez. Juste s'engager à faire un sommet, c'est insuffisant. Vous vous engagez à émettre des données annuellement pour qu'on voit l'état de la situation.
Même dans un sommet, honnêtement, avant d'en faire un, faut que tu saches exactement c'est quoi ton ordre du jour. Ton ordre du jour, ça va être les points abordés, mais c'est des points solutionnaires habituellement qu'il devrait y avoir dans un sommet.
Exactement.
Pas juste la discussion de la situation. La discussion de la situation devrait se faire chaque jour avec des données compilées, avec des constats auprès de plein d'organismes, de plein d'agents sur le terrain. Puis après, au sommet, c'est comme voici notre problème, voici le pourcentage, voici l'argent. Comment est-ce qu'on fait les choses à partir de maintenant?
C'est ça. Et là, on est en action par rapport au sommet qu'on a fait en 2024. T'es, j'en parle, on a créé le programme PRISM. On fait de plus en plus de logements abordables sociaux dans les centres-villes, dans les places où justement on constate de l'itinérance. Donc, on a renforcé P38. C'était des points qui étaient sortis du sommet de 2024. Fait que c'est pour ça que je trouve que de refaire un sommet, ça sert à rien. Faisons les actions qu'on avait décidées. Puis là, après ça, on évaluera attentivement les résultats.
Puis un des points principaux que le maire Marchand a ciblé, c'est vraiment de comptabiliser l'itinérance chaque année au lieu de le faire à plusieurs années comme on le fait actuellement. Je veux aussi souligner, parce que du côté de Montréal, on a vu au cours de la dernière semaine un nouveau protocole pour la gestion des campements de l'itinérance. Au lieu de directement les démanteler, on veut en quelque sorte les accompagner, à la limite les déplacer. On a parlé de campement, justement, d'itinérants. Oui. Aujourd'hui, avec Bruno Marchand, lui, de son côté, on dit que c'est totalement intolérable, puis que je vous laisse entendre, là, c'est assez clair.
Bien, on les démolit. On les démonte, les campements. À Québec, il n'y aura pas de campement. Non, ça ne sera pas toléré, ça ne l'était pas. Évidemment, indépendamment où ils sont, parfois, il peut y avoir quelques jours là, de délai avant qu'on soit informé. Il n'y aura pas de campement à Québec.
Mais je suis d'accord avec lui avec le renforcement qu'on a fait auprès des organismes. Normalement, pour la période estivale, tout le monde devrait avoir un lieu pour dormir le soir. Donc, je suis d'accord avec lui, là, justement. Il faut amener les gens qui sont en itinérance vers les organismes pour qu'ils les prennent en charge, puis qu'on règle le problème. Si on les laisse dans des campements, bien, il va juste avoir plus de campements, plus d'itinérants. Je trouve vraiment que c'est une bonne approche. Même si à première vue, elle peut paraître un peu sans cœur. Je démantèle ça, mais il y a une stratégie derrière ça.
Ben oui, puis quand on se compare, puis on voit à Montréal, les choses qui n'ont pas été démantelées ont quand même pris de l'ampleur. Là. C'est, mm-hmm. C'est pas jojo. Là. Tu te promènes, puis il y a plusieurs campements.
Exactement. Hey, on termine, Mathias, avec Canadien, centre Vidéotron.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qui va se passer? Là, le Canadien joue contre les Hurricanes. On va en parler avec Alex Laramé aux alentours de 13h10. L'Avalanche, nos anciens Nordiques, jouent contre les Golden Knights de Vegas. Là, plusieurs rêvent d'une finale Avalanche Canadien en se disant ça va être Canadien-Nordique. Oubliez ça, là, l'Avalanche, ça fait 33 ans qu'il n'existe pas un Nordique pantoute. Mais Bruno Marchand, lui, il pense quoi de ça?
Ben, vous allez l'entendre parce qu'il est très content de l'engouement que ça prend partout à Québec, là, comme à l'Agora ou encore au centre Vidéotron. Mais Bruno Marchand, lui, rêve encore d'une finale Avalanche Canadien. Je vous laisse l'entendre.
Moi, j'espère beaucoup qu'ils vont se rendre contre l'Avalanche. Puis j'espère beaucoup qu'on pourra avoir un centre Vidéotron avec des gilets de l'Avalanche slash Nordique et des gilets des Canadiens.
Vous prendrez pour qui?
Ça serait une déchirure.
Vous prendriez pour qui?
Je serais déchiré. J'ai encore le temps d'y penser.
Hey, là, on peut-tu arrêter de se faire mal nous autres-mêmes? On n'en veut pas de finale Canadien-Avalanche!
On avait réglé la question hier. Les Nordiques, malheureusement, risquent de ne jamais revenir.
Exactement.
On a aussi dit l'Avalanche, ce ne sont pas les anciens Nordiques. Un lot a coulé sous les ponts et ce n'est qu'une équipe qui nous a volé les Nordiques au final. Ouais.
Je pensais jamais dire ça. Et là, je le sais que mon ami Jean-Michel, avec qui je coach depuis que mon garçon a 8 ans, puis que quand un joueur dans mon équipe avait un gilet du Canadien, je disais que son chandail était lait pour être sûr qu'il ne le remette pas. Non, c'est pas vrai, je sais pas ça.
Mais ça peut être méchant des jeunes.
Hein? Je le dis aux autres coachs, je les lettres. Mais je le disais pas aux jeunes. Et là, qu'il me disait, un jour, tu vas virer Canadien. Je ne vire pas Canadien, mais je constate que la ville de Québec est Canadien.
Okay.
Puis sais-tu quoi? C'est bien parfait de même. Okay. L'essence est à 2$ le litre. Les aliments coûtent, on ne sait plus comment. Les taux hypothécaires ont monté.
Qu'est-ce que tu veux dire, là? Que ça nous prend du bonheur, puis c'est ça notre bonheur?
Oui, exactement. Évacuons ça dans un trip canadien de Montréal. Je comprends les jeunes aussi qui n'ont jamais vécu un Nordique. Ils sont partis il y a 33 ans.
C'est ça.
Hey, la ville est canadienne, c'est bien parfait
de
même.
Puis en passant, pour ceux qui... Parce que moi, ça me fait rire, j'ai entendu ça, j'ai tellement ri fort. C'est super vulgaire, mais... Un gars dans ton âge, Jeff, qui est comme toi, qui a été fervent des Nordiques, je te l'ai conté la semaine passée, ils appellent les trous de cul. Mais excuse-moi, les Canadiens, là, c'est plus du tout la même équipe. Ça a été 36 fois une autre équipe avec plein de joueurs différents. Il est encore fervent comme toi des Nordiques, fait qu'ils aillent.
Exactement. Donc, 418-971-1021, est-ce que vous pensez que l'Avalanche du Colorado, c'est encore les Nordiques de Québec?
Demain Marchand, visiblement, a encore une petite nostalgie de ce qu'il semblait nous dire.
Je pensais jamais dire ça, mais les Nordiques n'existent plus. Québec et Canadien. Mathieu Turcotte, toujours un bonheur de te recevoir.
Ça fait plaisir.
Salut.
Jusqu'à 14h, on en jase à Boulevard 102. Jeff Fortin, Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité. Boulevard 102.1.
Merci, Mathieu.
Qu'est-ce que
c'est?
Le micro
était ouvert, hein?
Ben,
merci, Mathieu. Il est vraiment fort. Vous voyez, on remercie nos collègues.
Exactement. Oh my God. Ouf!
Quoi?
Je peux pas croire que je parle en bien comme ça du Canadien. Mais c'est comme ça.
Non,
c'est comme ça. On va rejoindre immédiatement Alicia Despins, chroniqueuse en politique municipale. On fait le suivi avec ce que Mathias vient de nous présenter. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alicia, toi qui habites à Val-d'Or, sous la fièvre du Canadien aussi à Val-d'Or?
Quand même. Là, il y a tout le temps des petites soirées d'organiser ici et là. Des petits drapeaux sur pas mal toutes les autos. Là.
Ouais, de toute manière, vous avez en masse de castors à fouetter. Hein, fait que d'après moi, le Canadien, vous avez plus.
Hey, Alicia,
mais moi, j'avoue, moi, je m'ennuie des Nordiques puis j'ai juste 31 ans.
Mais t'as pas connu ça, j'ai 32.
Une...
Non, fais pas ça. Semblant.
Ouais. Vous êtes,
mais je m'ennuie pareil. Là,
c'est une vraie.
Mais tu t'ennuies de quoi? Tu t'ennuies de quoi? Comment on peut s'ennuyer de quelque chose qu'on n'a pas connu?
Ben, l'idée, c'est le concept.
Ben, c'est
je suis une fille de Québec. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, j'en dirais que je reste.
T'aurais
je reste
aimé vivre ça.
En moi.
Un peu comme quand on entend les histoires sur les expos de Montréal où là, ça faisait du Québec-Montréal dans l'auto pour aller au baseball. C'est ça, là. Tu t'aimerais vivre ça. T'envies ça.
Exact, ouais. Cool. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose là, il y a une fibre là, que ça vient chercher là, qui est encore là.
C'est clair. Alicia, le maire Marchand, encore une fois, grâce à la taxe sur la, la taxe de mutation, se permet d'avoir un bilan financier très positif pour une deuxième année de suite. Il dit que ce ne serait pas le moment de diminuer les taxes. Il les garde toujours à l'inflation, sous le seuil de l'inflation. Moi, honnêtement, je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ben, je pense que oui, effectivement, tu sais, il faut se garder un coussin. Luc Monty, l'image, là, tu sais, on a l'impression que c'est beaucoup d'argent parce que c'est beaucoup de millions de dollars, mais c'est juste 2 mois, finalement, là, de frais de fonctionnement de la ville. C'est une saine gestion. Il faut que tu te gardes un coussin. Tu sais pas ce qui peut arriver. La ville s'auto-assure hein, pour la très grande majorité de ses affaires. Fait que s'il y a un bâtiment qui brûle, s'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, c'est de l'argent qu'il faut aller chercher là, dans les coffres de la ville. S'il y a des tuyaux qui pètent, quoi que ce soit, on ne le sait pas. Fait qu'il faut, il faut prévoir ça. Par contre, il y a comme... C'est difficile politiquement, d'un point de vue de communication, surtout de venir dire aux citoyens « ça va super bien, la gestion des finances, ça va super bien ». Mais on va quand même augmenter vos taxes.
Ouais.
Il y a quelque chose qui est contradictoire dans le message, puis il va falloir là, qu'il attache ça comme il faut là, pour que ce soit bien compris que quand ça va bien dans les finances, ça ne veut pas dire qu'on est capable de se permettre des baisses ou des gels de taxes.
En effet, tu as raison. Puis moi, je disais aussi, je sais que c'est juste 10 millions, mais quand je vois qu'on prend une partie des surplus pour mettre encore dans la mobilité active, alors que d'un autre côté, la semaine dernière au congrès de l'UMQ, on se plaint de l'état des infrastructures, il me semble que ce n'est pas le bon message à envoyer de dire « je réponds à un nouveau besoin, mais je quête au gouvernement provincial pour un besoin que je devrais être capable de prendre en charge ».
Oui, puis ça, ça a vraiment été le sujet de la semaine passée, là, l'état des infrastructures partout à travers le Québec. Moi, je commence à penser qu'il faudrait quasiment que ce soit imbriqué dans le budget, tu sais, qu'on ait un chiffre là, sur combien ça va nous coûter, c'est quoi le déficit là, en termes monétaires là, des infrastructures, combien il va falloir qu'on mette par année pour s'assurer de garder ça en état.
Mais c'est pas normal qu'on l'ait pas. T'sais, c'est pas normal que tu dises je commence à penser. Il me semble que c'est pas la base, mais tu sais, nous, on n'est pas en politique, on n'a pas été en politique, peut-être que c'est vraiment pas la base, puis on est ailleurs. Là.
Bien, Yéza, ces chiffres-là, puis les ingénieurs à la ville ont un espèce de système, là, c'est vraiment impressionnant quand ils présentent ça, où ils sont capables de dire, OK, tel tuyau d'aqueduc ou d'égout dans telle rue, il y a une durée de vie de X années, mettons sur 100 ans, mais si on change à 80 ans de durée de vie, ça va coûter X dollars, puis si on change à 70 ou à 60 années de durée de vie, ça va coûter moins cher, donc sur une période de 200 ans, on va économiser. Ils sont capables de tout calculer ça, puis quand ils viennent ouvrir les rues, refaire l'asphalte, ben c'est là, ils changent au meilleur moment possible. Ça, c'est un monde idéal. Évidemment, ils ne sont pas capables de faire ça là, pour l'ensemble du réseau de la ville, mais ils sont capables de calculer ça. Moi, ce que je voulais dire pour le budget, c'est que le budget, ça reste, c'est les chiffres, c'est l'argent qui rentre, qui sort des coffres à chaque année. Mais il y a ces éléments-là qui seraient intéressants de venir accrocher. On les a quand même, les chiffres, ça existe. Là.
Il faudrait vraiment se faire, puis là, je vais le dire comme ça, puis merci Alicia, honnêtement, c'est vraiment, tu nous pointes vraiment où est le problème.
Mais surtout si on a ces données-là.
Exactement. Faudrait faire comme on fait pour la dette de la ville. T'sais, la dette de la ville, on le regarde, puis elle diminue à chaque budget, puis on dit on a remboursé tant, puis elle nous coûte tant d'intérêt. Mais il faudrait faire la même chose avec nos infrastructures. Puis là, je donne un chiffre en l'air. Là. Exemple, Ville de Québec, on est 1 milliard en retard sur nos infrastructures. Bon, bien, parfait. Ouais. Ça veut dire que si je veux arriver à zéro d'ici 20 ans, il faut que j'investisse. Puis là, je leur donne des chiffres en l'air. 50 millions par année. Fait que là, je le vois, ça part de mon budget, 50 millions pour la rénovation de mes infrastructures. Puis je suis mon tableau pour arriver à zéro. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait le faire si on veut vraiment le prendre en main. Parce que sinon, là, tu sais, je reprends ce que j'ai dit. Ah, un nouveau besoin qui se crée. Ah, ben ouais, je vais faire mon nouveau besoin. Les gens vont m'aimer. Je crée quelque chose. Puis pendant ce temps-là, on laisse aller le tuyau de 80 ans jusqu'à 100 ans.
Oui, puis ça vient avec un cadre financier. Là, tu suis ton cadre financier, puis peu importe qui est élu, tu t'assures que ton administration publique a suivi le cadre financier. Mais c'est un bon exemple que tu donnes avec la dette, parce qu'au final, c'est un peu une dette, là. Tu sais,
ben
c'est
oui.
De l'argent qu'il faut mettre à chaque année, peu importe. Puis plus tu attends, plus ça coûte cher. Puis si on a encore du temps sur
ben oui,
les résultats financiers de la ville, là, parce que c'est quand même... C'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir que ça va bien, puis que malgré le contexte économique, etc., que bon, le dynamisme immobilier est au rendez-vous, etc. Mais moi, ce que je veux voir à chaque année, c'est si le cadre financier y est respecté,
ouais.
Notamment dans le remboursement de la dette. Puis là, on voit, c'est clair, tu sais, puis il est beau le graphique. C'est moindrement que tu as géré quoi que ce soit dans ta vie, voir ça. Un graphique où la dette est partie en 2016 à 113 % baisse constante aujourd'hui 74 % en 2025, c'est excellent, là. Puis l'objectif visé de 70 % en 2032, moi j'ai l'impression qu'il y a un potentiel d'atteindre ça beaucoup plus tôt. Ça ferait une super belle annonce préélectorale en 2029 de pouvoir dire on a atteint
en effet.
Notre cible 3 ans plus tôt de remboursement de la dette. Il disait, il y a des villes qui sont à 120 %.
Ah oui, Lévis est à 139 %, je pense, là, si je ne me trompe pas.
C'est tout de l'argent d'intérêt qu'on est capable de mettre ailleurs que sur la dette.
Exactement. Puis c'est pour ça, tu vois, la dette pas remboursée par le gouvernement supérieur. Donc, c'est pour ça que les infrastructures, je pense que les municipalités ont à s'y attaquer par eux-mêmes en premier lieu aussi. C'est un peu comme on gère la dette en disant, on va prendre bouchée par bouchée, puis on va le diminuer, puis on va le suivre. Puis c'est de l'argent qu'on va mettre là-dedans. Il y a un pouvoir, je trouve, que les maires et mairesses, malheureusement, n'utilisent pas pour toujours aller essayer de chercher au palier supérieur alors qu'ils peuvent poser des actions. Moi, c'est ça qui me tanne un peu dans ce discours-là de « Ah, créez-nous une nouvelle taxe ou un nouveau programme, puis on va taxer un peu plus les citoyens, puis quand je vais mettre une pièce, le gouvernement va en mettre 3 ». Non, tu as un pouvoir de décider de prioriser.
C'est bien difficile aujourd'hui d'avoir une vision d'avenir. Tu sais, t'es là pour 4 ans, 8 ans, peut-être 12 quand t'es élu. C'est très difficile là, de se tenir pour un plan, à un plan puis dire, moi, ma vision, c'est que dans 20 ans, ça aille mieux, tu sais, que ça aille bien puis qu'on ait réglé des affaires. Fait que c'est pas facile de mettre l'individu de côté puis de mettre sa ville en premier puis de regarder sur un horizon de plusieurs décennies quand tu sais que tu seras plus là. Fait que effectivement, c'est un gros enjeu, mais c'est pour ça que l'administration publique existe, puis on leur lance pas assez de fleurs, là. Mais tu sais, Luc Monty, c'est un ancien sous-ministre aux finances, il connaît ses affaires, il en a géré de l'argent au gouvernement du Québec. On est vraiment chanceux de l'avoir comme DG de la Ville de Québec. Il prend un peu en âge. Moi, je m'inquiète du moment où il va vouloir prendre sa retraite.
Parce que tu vois pas de relève?
De la vie. Bien, il y a sûrement de la relève. J'espère qu'il y en a de la relève. Il y a de la relève assurément à l'interne. Il y a des gens très compétents à la Ville de Québec.
Ben, mais hey, attends.
C'est un ancien sous-ministre aux finances.
On se remet en campagne électorale. Là, Stéphane Lachance, sa maman l'avait créé, la relève. Là, celui qui restait plus chef s'en allait des jeux de la ville. Là. Il y en avait de la relève. Comme... Oh, il est où, sa maman?
Ah, facile de parti. Même.
Facile de même. Alicia, on termine cette chronique municipale. Je veux te faire entendre justement le scoop qu'on a sorti hier sur Capital Mobilité et t'entendre par la suite.
Nouveau scandale qui tourne autour de Capital Mobilité, le fameux contrat avec la firme Simon pour avoir une application multitransport, 12,1 millions de dollars. Mais là, on a dit, ça marche pas, on déchire le contrat. Mais il y a déjà 2,1 millions de dépensés, puis on doit encore 1,9 millions. Donc, ça veut dire que pas d'application, on déchire le contrat, ça a coûté 4 millions. Les gens de Capital Mobilité, ils ont fait affaire avec des compagnies externes, spécialistes pour les applications intégrées. Sais-tu comment ça a coûté, ça? Ça a coûté 890 000.
De réfléchir.
Okay. Fait que là, on est rendu devant le scandale de l'application mobile.
Une application.
4,8 millions de dollars.
Alicia Despins, quand est-ce que des têtes vont rouler à Capital Mobilité pour avoir perdu 4,8 millions de dollars? Puis ça, je pense que c'est les premiers balbutiements parce qu'on a dû réfléchir encore et encore dans une application qu'on n'utilisera pas puis qu'on va utiliser celle de Montréal qui est en marche depuis 2017.
Ah, mon Dieu, ce dossier-là, là, je t'entendais hier, puis effectivement, il y a quelque chose là à creuser. Tu sais, c'est de l'argent, là. C'est beaucoup d'argent avec trop peu de résultats. Moi, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Je vais commencer par dire, tu sais, ce que je vois de beau, ce que je vois de... Il y a du potentiel, OK? On a créé une espèce de bibitte hybride entre le public puis le privé qui veut qui peut servir le public avec un objectif là, de rentabilité, ce qu'on ne voit pas habituellement au public. Moi, je suis une grande partisane de l'innovation dans le secteur public, puis pour moi, ça fait partie de ça, cette application-là, les idées que Capital Mobilité lance. Mais l'innovation, ça vient avec une certaine tolérance à la prise de risque, ce qu'on voit trop peu souvent, surtout dans le milieu public. Maintenant, quand on prend des risques, ben, faut s'assurer d'être transparent. Puis je pense que c'est là que le bas blesse avec Capital Mobilité, où moi, quand j'étais à l'Hôtel de Ville avec Claude Villeneuve, on a essayé, là, c'était
ben, je sais, je couvrais les conférences de presse de Claude Villeneuve et c'était épouvantable d'avoir des chiffres de Capital Mobilité.
Une boîte noire, là. C'est très difficile, là, d'avoir l'heure juste avec Capital Mobilité. C'est vraiment une boîte noire. On n'a pas de transparence.
Ça, habituellement, ça nous allume des lumières. Quand on manque de transparence, quand on ne peut pas travailler en collaboration, quand les chiffres ne viennent pas à nos oreilles puis on n'est pas capable, justement, de mettre les deux parties ensemble sur une table de travail, ça allume pas des lumières? On devrait pas l'obliger?
Ben oui, puis on dirait que... Moi, j'ai l'impression, là, peut-être que je suis trop optimiste, mais j'ai l'impression que si c'est ça, OK? On a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, ça a coûté de l'argent, mais à un moment donné, il faut en essayer des affaires. Puis oui, des fois, ça va pas tout le temps réussir, mais au moins, si on l'explique aux gens, je pense que la grande majorité des personnes sont capables de comprendre ça. Sont peut-être, tu sais, ça va peut-être entamer plusieurs là, d'avoir mis de l'argent comme ça, puis que ça donne rien. Mais ça peut atténuer là, quand même certaines tensions, puis dire OK, le problème finalement, c'est moins la transparence, c'est plus que sur celle-là, on l'a échappé. Ça, c'est tel que tel. Maintenant, moi, si j'étais l'opposition à l'Hôtel de Ville aujourd'hui, je demanderais un plénier à l'Hôtel de Ville.
C'est
clair. J'ai fait venir Capital Mobilité. Je voudrais leur poser ces questions-là, mm-hmm. faire toute la lumière là-dessus. Puis tu te dis, tu sais, est-ce qu'il y a des têtes qui doivent bouler à la fin de ça? Peut-être, peut-être pas. On l'a pas le fond de l'histoire. On n'a pas leur version. Mais selon moi, Capital Mobilité, là-dessus, doivent rendre des comptes. Ça, c'est certain. Là.
Je suis très, 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 très d'accord avec toi. Donc, ça va être un dossier à suivre, un dossier qu'on va tenter de pousser encore plus, justement, pour que ça réagisse à l'Hôtel de Ville, ici, à partir de boulevard 102-1. Alicia Despins, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente semaine.
Bonne journée.
Salut, merci. Alicia Despins, chroniqueuse en politique municipale avec nous. On adore l'entendre. On adore son expertise. Hein, regardons ça. On est capable de chiffrer ça, toi, tuyau par tuyau.
Ouais, pas juste ça, là.
Pas
c'est,
pire, hein?
C'est plus que ça. C'est tuyau par tuyau. Ça va nous coûter combien si on change dans 30, dans 60,
ouais.
dans 80 ans? C'est tellement précis.
On serait capable de se faire un plan, puis là, de dire, ah, regardons ça. Dans 5 ans, je vais avoir résolu tel pourcentage, dans 10 ans, tel pourcentage, dans 15, dans 20. Sais-tu quoi, le maire Labombe était bon pour ça? Il a laissé à la Ville de Québec un cadre financier. Puis ce cadre financier-là, là, si Bruno Marchand se pète les bretelles à l'heure actuelle en disant « Regardez comment ça va bien, les finances de la Ville », c'est Régis Labombe qui a fait ça.
C'est sûr que quand on parle de rigueur budgétaire là, puis de cadre, on peut ouais. difficilement en vouloir à un maire qui les a respectés puis qui les a fait.
Exactement. C'est Régis Labombe qui l'a fait, puis Bruno Marchand est arrivé, puis il a dit à Luc Montier « Bon, comment ça marche, les finances de la Ville? Voici le cadre financier pour le remboursement de la dette de Régis Labombe. » Puis Bruno Marchand, il a dit « Ben, quand? On va appliquer ça. »
Puis je trouve ça quand même super important, ce qu'elle a dit, Alicia, aussi, sur bon, l'expérience de M. Monti, puis le oui. fait qu'on est extrêmement chanceux de l'avoir encore à la Ville de Québec. Est-ce qu'on s'en sert encore? Est-ce qu'on a prévu une relève? Est-ce mm-hmm. qu'on prend cette expertise-là avant qu'il quitte? T'sais, ça se perd beaucoup aussi en entreprise.
En effet, il va falloir assumer cette relève-là. Parlant de relève, Pascal, c'est vrai. La relève du Canadien Fabien, le cop d'Abèche, là.
C'est un gardien recru. Ça, mon ami, là.
C'est un gardien recru d'Obèche. Il vient de gagner 2 matchs numéro 7. Lane Hudson, c'est un joueur de deuxième année. On dirait un vétéran.
OK.
On va parler un peu du Canadien de Montréal après la pause.
Mais avec Alex Laramé.
Avec Alex Laramé. Ah! Puis on va parler du Grand Prix d'F1 aussi qui a envahi Montréal. Mais les travailleurs du sexe vont peut-être être en grève. Oups.
Pas grave, ça.
À l'émission d'En Jase.
Juste moins de 20 000 $ Détail en succursale chez Automobile en direct. Ton auto, on l'a direct.
En 1970, Matelas Dauphin fabriquait, vendait et garantissait ses tout premiers matelas. 56 ans plus tard, Matelas Dauphin est devenu l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Pour souligner son 56e anniversaire, Matelas Dauphin vous offre des économies majeures sur ses matelas plus taxes payées. Économisez 490 $ sur le matelas Alcove format double en spécial à 599 $ taxes payées. C'est la vente anniversaire dans tous les Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Jusqu'au 30 mai, chez Pièces d'auto économiques, les plaquettes de frein Bosch sont à 20 % de rabais. Ajoutez 15 % de rabais sur les disques de frein BrakeMax et jusqu'à 20 % de rabais sur les essuie-glaces Rain-X. Meilleur rapport qualité-prix-service de l'industrie. Pièceséconomique.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlesbourg Toyota. Évalue ta comme neuve au comme-neuve.com.
Acheter un bon système de chauffage ou de climatisation, ça peut vite devenir compliqué. Choisir le bon modèle, comparer les prix, comprendre les subventions. Ouf! Hey, chez EnviroConfort, on vous rend ça plus simple et on va jusqu'à vous faire vivre une vraie expérience pour l'achat de votre thermopompe. On vous conseille, on trouve le meilleur équipement pour votre maison, on s'occupe de l'installation et même de vous montrer comment ça marche. Bref, vous vous occupez de rien, sauf d'être bien chez vous. EnviroConfort, le confort sans le moindre effort.
Chez McDo, savourez un café glacé ou une boisson de fontaine petit format à seulement 1$ plus taxe chacun. Puis c'est pas juste une promo qui dure une couple de jours, c'est tout l'été, seulement chez McDo.
Ne s'applique pas au café glacé aromatisé ni au café nuage glacé. Dans les McDo du Canada participant, taxe en suit, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Cet été, transformez votre cours avec Moreau PRS. Solarium Sun Space, fenêtres 3 saisons, auvent, pergola, rampe, patio et bien plus. Et bonne nouvelle, la nouvelle succursale de Lévis ouvre ses portes le 25 mai. MoreauPRS.com.
C'est le moment de passer chez Desjardins Volkswagen. Obtenez le Taos 2026 à partir de 0% jusqu'à 60 mois. Plusieurs modèles disponibles pour livraison rapide, incluant les Golf R et GTI. Et sur tous nos VUS 2026, profitez de 3 ans d'entretien inclus. DesjardinsVolkswagen.com.
Boulevard.
Il y a une seule façon de partir la web radio de Boulevard 102.1. Tu vas au blvd.fm puis tu pèses sur play.
102.1.
Quand j'arrive le matin, le surveillant me dit toujours bonjour.
Quand ça ne va pas, mon éducatrice m'aide à trouver des solutions.
Quand je reviens de l'école, je suis fière de montrer ce que mon enseignante m'a appris.
Derrière chaque élève, une équipe entière veille à son bien-être et à sa réussite. Le 26 mai, prenons le temps de dire merci au personnel scolaire. Un message du gouvernement du Québec.
$0. C'est ce que vous pourriez payer pour vos lunettes chez Scoop. En mai, Scoop Vision rembourse une facture de lunettes dans chacune de ses 8 boutiques. Scoop Vision, voir clair pour pas cher. Tirage le 1er juin. Scoopvision.ca.
Wow! La nouvelle Mitsubishi RVR ES 2026 peut être à vous pour seulement $79 par semaine chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi. Aucun comptant, 16 000 km par année avec un taux d'intérêt de 3,49% sur 60 mois. Profitez d'un VUS fiable, économique en essence et protégé par la célèbre garantie 10 ans Mitsubishi. Dépêchez-vous, cette offre est pour un temps limité seulement. Passez dès maintenant chez Québec Mitsubishi et Sainte-Foy Mitsubishi.
Le bon temps est enfin là et c'est le moment parfait pour lancer vos projets avec les journées Steel chez Faneuf Équipement Agricole. Jusqu'au 20 juin, à l'achat de produits Steel sélectionnés, obtenez une batterie gratuite d'une valeur pouvant atteindre $499.99. Et ce n'est pas tout. Passez nous voir à la succursale de la Durantais et participez à notre concours pour courir la chance de gagner une carte cadeau Faneuf de $250. On vous attend au 23 rue Olivier Morel. Certaines conditions s'appliquent, quantité limitée.
Ton boss t'a encore dit « on va s'en reparler ». Tes projets avancent à 2 à l'heure, puis t'es tanné de rafraîchir ton écran en attendant que ça bouge. Viens nous voir. Ici, ça avance, puis vite. Chez Trudel, on fait pas juste construire, on transforme Québec. On cherche des gens brillants, créatifs, ambitieux. Du monde qui a envie de faire une vraie différence. Si tu veux évoluer dans une équipe innovante et passionnée, t'es à la bonne place. Va voir Trudel.ca et viens bâtir quelque chose de grand avec nous. Trudel, forger l'espace.
Le nouveau CX-5 2026 est arrivé. Complètement redessiné avec un intérieur modernisé, incluant un écran de 12,9 pouces et Google intégré. Obtenez-le à partir de seulement $39,465. On vous offre aussi le Mazda 3 2026 à partir de $92 par semaine et le CX-30 traction intégrale 2026 à partir de $97 par semaine en location 48 mois. Mais le plus important dans tout ça, c'est de venir l'essayer chez Lévis Mazda. Chez Lévis Mazda, on s'occupe de vous.
L'actualité présentée par MRL Courtier Hypothécaire. Dans un marché en constante évolution, comparez vos...
Avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Pascal!
Jeff!
À la demande générale!
T'sais, on est des bons joueurs de hockey, mais je pense qu'on a encore des meilleurs, bien meilleures personnes que des joueurs de hockey. Je pense que ça part beaucoup avec ça.
Écoute ça, Alex Laramain!
Ben, je parlais à ma mère beaucoup durant l'overtime. Et je l'ai remercié.
Merci! L'arrêt partiel de Vasilevski.
OK, c'était la meilleure partie de la chanson de Max Larouche, c'est-à-dire le montage de la chanson. C'est un montage quand même plaisant à entendre sur les séries du Canadien. Max, je t'aime, tu sais très bien. Mais pour ceux qui l'ont entendu ce matin, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Pas sûr d'écouter encore Boulevard 101, alors j'aime mieux ne pas la faire jouer à l'émission d'En Jase pour garder les auditeurs. » Mais Alex Laramain, comment vas-tu?
Ben, en pleine forme. Écoute, les séries du Canadien reprennent demain, fait qu'on a bien hâte à ça.
Ouais, exactement. Martin Saint-Louis qui était absent pour des raisons familiales de l'entraînement ce matin. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est en dehors de la maison, hein? Les enfants puis la femme doivent avoir hâte de le voir.
Ben, tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Saint-Louis vit à Montréal durant la saison, mais sa femme puis son plus jeune, eux, sont restés aux États-Unis. Étant donné que son plus jeune est encore à l'école, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, visiblement, oui, là, pour des raisons familiales, puis je pense qu'il faut respecter ça. Là. Selon les informations qu'on a eues, il va être à son poste là, demain, donc ça semble rien de trop majeur, parce qu'on se souvient qu'il y avait eu un accident à un moment donné avec un de ses enfants.
Oui.
Il avait quitté pour plusieurs matchs, fait qu'on ne semble pas être là-dedans, du moins on le souhaite. Donc, puis sinon, c'est... un petit repos des médias là, pour Martin Saint-Louis, je pense qu'il ne dira pas non à son nom.
Ben non, ça fait pas de tâche. Je comprends que ça fasse partie de la job, mais c'est intense des fois.
Ah
là.
Oui, d'ailleurs, il était très court dans ses réponses lundi avant le 7e match contre les Sabres de Buffalo.
Ben, ça n'a pas été le plus grand vocal non plus.
Non, c'est pas le plus grand communicateur à la base, en effet.
Quand on comprend ce qu'il dit encore là.
T'as entièrement raison. Tout le monde était là à l'entraînement, rien de majeur. Donc, bref, on devrait avoir à peu près le même alignement. Quoi qu'on va se poser la question, qui doit aller Kapanen, Veleno ou même Gallagher va jouer dans le premier match?
Ben, c'est sûr qu'il pourra avoir des petits ajustements. Là, on a vu Kapanen jouer dans le 7e match, mais je dis on a vu, faut le dire vite, là,
ouais.
Pour regarder son temps de jeu.
Ouais,
mais
lui, Jacky, on les a plus vus sur le banc en train de donner un petit coup au coéquipier qui rentrait.
Ben, c'est ça, il donnait les bouteilles d'eau, là, passait les petits sels d'ammoniac là, pour sniffer, là, mais sinon, il ne se passait pas grand-chose de leur côté. Mais ouais, moi, je m'attends pas mal au même alignement. Là. Jacky devrait faire partie des partants, jouer moins de 6 minutes par match. Sinon, les combinaisons de trio, ben, après une victoire, habituellement, on ne change pas ça, donc on devrait avoir les mêmes trios là, pour le premier match contre la Caroline.
Alex Laramain, ça débute ce soir. Les Golden Knights de Vegas seront à Colorado pour affronter l'Avalanche. Mais grosse absence du côté du Colorado. Carl Makar va rater le premier match.
Ouais, c'est sûr que ça peut avoir un effet sur le premier match. Évidemment, on s'attend à ce qu'il fasse un retour dans la série. Il ne devrait pas rater tous les matchs, mais du moins pour le premier, il ne sera pas là. Au moins, le match est présenté au Colorado. Donc ça, c'est un avantage. Du côté de l'Avalanche. Mais moi, je pense que ça va être une série. Évidemment, la plupart des gens mettent le Colorado vainqueur. Là, moi aussi, là, je pense qu'ils vont gagner cette série-là. Mais selon moi, les Golden Knights vont être coriaces. Surtout
vraiment.
Que, là, ils ont reçu la pénalité de la Ligue nationale pour leur... étant donné qu'ils n'ont pas parlé aux médias, là, John Tortorella n'a pas parlé aux médias après la victoire des Ducks. Puis à un moment, on va utiliser ça, canaliser cette énergie-là comme nous contre le monde, tout le monde est contre nous. Donc moi, je pense que cette série-là va se ramasser en 7, là, mais que Colorado va réussir à gagner ça à la fin.
Ah, ben vois-tu, c'est ma prédiction également. L'Avalanche Colorado en 7. Les Golden Knights jouent très, 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 très bien depuis le début des séries. Donc je m'attends à une série très serrée. Ça va être très intéressant. Alex, en terminant sur le Grand Prix de Formula à Montréal en fin de semaine. D'habitude, on en entend plus parler parce que c'est au mois de juin puis le Canadien joue plus, mais là, ça s'adonne qu'on a devancé le calendrier au mois de mai et le Canadien est en finale de conférence. Quel est l'horaire? À quoi s'attendre? Il y a des nouvelles estrades. Je pense qu'on peut accueillir plus de 100 000 personnes là, sur le site à la fois.
Ben ouais, là, dans les grosses nouveautés cette année, là, la Ville de Montréal a présenté son plan de mobilité. Venez pas sur l'île Jean-Drapeau avec votre char, vous allez vous faire tourner de bord, il n'y aura aucune automobile qui va être qui va être admise sur le parc Jean-Drapeau, à part évidemment les véhicules d'urgence puis ceux qui vont avoir des accréditations particulières. Mais sinon, ça va 100% se faire avec le transport en commun. Évidemment, le métro, ça reste la meilleure option. Il va y avoir une possibilité aussi d'y aller en vélo. Évidemment, toutes les festivités, là, ça commence sur la rue Crescent. Là, les véhicules, tout ça, vont être exposés, je pense, à partir de demain. Et après ça, bien évidemment, vendredi, on y va avec les essais, samedi les qualifs, puis la grande course, ben, c'est dimanche après-midi. Et là, je regardais la météo, là, dimanche, j'annonce de la pluie. Fait que on pourrait avoir de la météo changeante là, durant le week-end. Ça va donner du fil à retordre aux pilotes.
Exactement. Puis c'est à Montréal, c'est toujours une course où il arrive deux, trois affaires qui n'arrivent pas ailleurs, là, de par la configuration du circuit et de par cette météo-là qui est souvent changeante. C'est toujours un de mes grands prix préférés. Puis je dis pas ça parce que c'est chez nous au Québec. On en parlera au courant de la semaine. Alex Laramé, je te remercie infiniment.
Yes, on s'en parle demain.
Ah oh oui, on s'en parle demain de ce premier match canadien Hurricanes. On va se parler dans la première heure du show. Salut Alex.
Ciao.
Alex Laramé, chroniqueur sportif pour nous et journaliste au 99.5 Montréal.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Pascal, tantôt, je parlais de rigueur pour nos politiciens de l'opposition.
Oui.
Déjà, il n'y a rien qui vous empêche de prendre votre petite valise, de vos petits espadrilles, puis d'aller rencontrer des gens, puis dire « Hey, voici, moi, j'ai un plan de match parce que j'ai parlé sur le terrain. » Je vais te faire entendre, ça dure environ une minute, c'est une intervention de Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire par rapport aux fouilles à nu dans nos centres jeunesse. Puis je vais t'en venir avec les informations que Guillaume Clich-Rivard aurait dû normalement avoir.
Combien il y a eu de fouilles à nu en centre jeunesse l'année passée? J'aimerais ça que vous me disiez, selon vous, là.
Par la Lionel Carman.
Aucune.
La directive a été envoyée en juillet 2025.
OK. Puis, des fouilles à nu, c'est ce qu'on appelle officiellement dans le jargon de Santé Québec maintenant des fouilles complètes, là, on se comprend? C'est différent, mais on en demande à un enfant d'enlever ses vêtements, d'enlever ses sous-vêtements. Il se place sous une serviette, là. Et puis ensuite, on lui demande de lever ses bras, de se tourner. C'est de ça qu'on parle. Là. Ça a toujours été de ça qu'on parle. Dans le cahier de crédit, ça dit qu'il y en a eu 3000 des fouilles comme ça de jeunes mineurs en centre jeunesse. Près de 3000 l'année passée, M. le ministre. Ce qui est supposé être une mesure exceptionnelle. 3000, c'est 8 enfants par jour. Ça, c'est 8 mineurs acquis. Puis 8 mineurs placés dans la protection de l'État. Là, hein? Des enfants qui ont peut-être subi probablement des traumatismes, pas tous, là, mais en tout cas une grande majorité.
Si Guillaume Clich-Rivard avait fait son travail, Pascal, puis avant de juste regarder une colonne de chiffres là, dans un rapport de Santé Québec, il serait allé faire le tour des centres jeunesse puis des DPJ. Puis il se serait rendu compte que c'est pas du tout ce qu'il raconte. Les fouilles à nu, premièrement, c'est un processus où, oui, il y en a. On les appelle les fouilles à nu, là, mais c'est pas nécessairement le bon terme. Dans le fond, la façon que ça fonctionne chez les jeunes, c'est que lorsque on les suspecte, puis là, ça peut être pour des criminels aussi endurcis que le meurtrier, exemple, de Daphné Jolivet. Lorsqu'on le suspecte de dire « Ouais, il manque des objets ici dans le centre jeunesse. D'après moi, il s'est conçu un pic, lui-là, là, pour attaquer quelqu'un. » Fait que là, on dit au meurtrier de Daphné Jolivet, va-t'en dans cette salle-là. Il n'y a pas de personne qui peut voir. Il enlève ses vêtements. Il met une robe de chambre. On fouille les vêtements. Après ça, on ouvre les lumières. On lui dit, fouille-toi dans les cheveux pour être sûr que tu n'as rien. Puis la robe de chambre est faite en sorte qu'elle est quand même assez collée pour voir, je me suis tapé de quoi sur moi. T'sais. Avant, on les faisait pencher en petit bonhomme. On le fait plus. Donc, c'est ça, une fouille à nu en centre jeunesse.
Le petit bonhomme, c'était parce que si on s'était inséré quelque chose pour la camoufler,
exactement,
ça sortait.
C'est ça. On a tous compris. On ne le fait plus. Et avant toute chose, avant de faire une fouille à nu, bien évidemment, ça prend des autorisations spéciales des gestionnaires. Il faut avoir, en quelque sorte, ça être remonté un dossier. Puis on passe aussi le détecteur de métal.
Oui.
Donc, pour. Puis là, bien, évidemment, on trouve de quoi que le détecteur de métal, mais on n'a pas besoin de faire la fouille à nu. Donc, c'est vrai qu'il y en a encore dans nos centres jeunesse, mais ils sont liés à Les runs sont des criminels endurcis. Là.
Ce qui est de plus en plus commun, malheureusement.
Exactement.
Parce qu'il y a la pas du gain, il y a le fait qu'il y a des jeunes qui sont désorientés, qui n'ont pas d'encadrement, et que pour eux, la criminalité est une source facile d'argent.
Exactement.
Ou encore de gangs.
En plein ça. T'as tout compris. Donc, c'est fait pour eux. C'est fait également pour les jeunes parce que dans l'unité sécuritaire, il y a deux types de jeunes. Il y a ces criminels endurcis-là que je te parle. Puis, il y a également les jeunes qui vont avoir des problèmes de santé mentale. Donc, qui vont vouloir porter atteinte à leur vie. Ouais. Et là, c'est fait aussi pour eux parce que des fois, eux autres, ils vont vouloir avaler des batteries, avaler des objets métalliques, tout ça pour tenter de s'enlever la vie. Donc, on le fait pour eux aussi dans le but de protéger leur vie. Fait qu'il n'y a pas de jeune de 11, 12, 13, 14 ans là, qui n'a rien fait dans la vie, qui est juste en centre jeunesse là parce qu'il se retrouve là parce que ses parents ne se sont pas occupés de lui sur le sens du monde. Il n'y a pas de ça dans le processus de fouille à nu. C'est vraiment
eux sont écartés.
Ces deux types sont écartés. Eux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, des fois, ben, rentrer dans leur chambre puis fouiller parce qu'on suspecte qu'ils ont peut-être un wax pen ou une vapoteuse.
Okay.
Bon, puis là, bon, on va récupérer l'objet puis on va dire, bon, ben ça, c'est à toi. C'est pas pour toi. Alors, quand Guillaume Clich-Rivard dit, ah, des jeunes qui ont subi des traumatismes, non, il n'y a pas de jeune qui a subi des traumatismes qui est justement fouillé. Puis là, t'es à nu, on s'entend, là, fouillé avec la robe de charme. Fait que, je trouve ça désolant qu'un politicien tente de faire une grande escalade avec une situation qui n'est pas réelle.
J'ai de la misère, puis je savais que tu allais parler de ça, j'ai de la misère à me positionner parce que est-ce que j'ai l'impression que le politicien était démagogue? Est-ce qu'il voulait juste mettre le feu à quelque part? J'avais pas cette impression-là.
Mm-hmm.
Mais peut-être que des fois, la pertinence de trois clics de plus, là, deux clics de plus, est là.
C'est ça.
Dans le sens où il ne faut pas commencer à alerter aussi sur ces sujets de société-là. Parce que je veux pas qu'on en vienne non plus. Puis je sais que c'est des mineurs. Je sais qu'il faut faire attention aux droits de la personne. Puis aussi à l'intégrité, des choses comme ça. Je pense que vous me connaissez assez là,
ben
pour
oui.
comprendre un peu comment je suis dans la vie en général. Mais je veux pas que ça vienne comme dans nos prisons en ce moment, où on s'est tellement penché là-dessus, puis on a tellement tourné à 90 degrés sur les droits des prisonniers, qu'il y a une décrépitude en ce moment du calme, du maintien aussi de la sécurité pour tous, puis du maintien aussi de l'ordre entre les murs de nos prisons. Je sais que c'est deux cas différents, là, des prisons, puis là, on parle de centre jeunesse. Mais ça reste qu'il faut un encadrement pour ces jeunes-là qui, malheureusement, ils se font recruter dans toutes sortes d'affaires.
Ah, vraiment? Puis cet encadrement-là est offert. Et lorsqu'ils se retrouvent en centre jeunesse, il y a des thérapies qui sont obligatoires. Il y a du sport qui est obligatoire. Il y a des saines habitudes de vie. Donc, tout cet encadrement positif-là est offert.
Fait que si on amène une lumière négative, là, comme ça donne malheureusement avec ces commentaires-là, qui manquaient peut-être deux clics de plus, mais ça amène le débat qui est démagogue en société, puis probablement, bien, il va falloir prendre des initiatives plus politiques qu'humaines sur la situation pour ne pas se faire pointer du doigt sur notre façon de faire de la politique puis de gérer la situation.
Exactement.
Est-ce que je me suis bien exprimé?
On se comprend très bien.
J'ai pas envie qu'on commence à alléger certaines affaires parce que, mon Dieu, on veut pas avoir l'air d'un gouvernement qui fait pas de sens.
Oui, puis je salue les gens de la capitale nationale, même Lionel Carmin, vous pouvez le réécouter sur blvd.fm ce matin. Nous a mentionné à quel point on était précurseurs. Tous nos jeunes de 11 à 14 ans se retrouvent dans des foyers, non pas dans des centres de jeunesse. Puis également, ben même tu sais, de 11 à 14 ans, mais à partir de 7 ans. Et également, le fait qu'on est divisé en deux notre unité sécuritaire, on est les seuls à le faire présentement. Donc, en capitale nationale, on a des excellentes pratiques. Je sais qu'on a des éducateurs, des dirigeants de centres de jeunesse qui nous écoutent. Bravo, guys, vous faites une belle job, lâchez pas. Puis, ben on va faire en sorte justement de ramener les gens à la réalité.
Absolument.
Julie White, nouvelle candidate pour le PLQ dans Jean Talon, est avec nous après cette courte pause à Boulevard 101, émission d'En Jase.
Je préviens, on jase!
Oh oui, on jase, et c'est l'émission d'En Jase. D'ailleurs, si vous ratez les bouts de l'émission sur blvd.fm, nos meilleurs moments s'y retrouvent, et vous savez que sûrement la meilleure façon de nous écouter, c'est notre application BLVD 101, disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Pascal, hier, quand j'ai appelé la gang des communications au niveau du Parti libéral du Québec, j'ai dit « Bon, je présume que dans Jean Talon, demain, vous allez annoncer une candidate. » Une candidate qui s'était déjà présentée dans Jean Talon aux dernières élections provinciales. Une candidate qui, dans son rôle auprès de manufacturiers exportateurs du Québec, venait nous voir régulièrement ici en studio. Et là, on m'a dit « Ah, on peut rien te confirmer.
Mais toi, t'avais déjà la confirmation de ce que je comprends. Mais là, t'allais à la fausse pêche.
Ce que j'avais imaginé est arrivé parce que Julie White est avec nous en studio. Julie, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Ça va bien. Hey Julie, honnêtement, quand tu travaillais pour manufacturier exportateur, je t'appelais Julie. Fait que je vais continuer à t'appeler Julie
avec
quand
plaisir.
Même.
Puis écoute, je change pas de personnalité. Ah, c'est ça. S'il vous plaît,
puis
là.
Mes patrons me taperont sur les doigts, Pascal. Puis ils diront, faut que tu vous vois ça, les politiciens. Mais j'en connais trop, puis je les.
Ouais, là, moi, c'est transparent. Toi. Puis je pense que ça, on se doit d'être transparent, par
exactement.
Contre, quand on est à l'animation de quelque chose. Si on connaît quelqu'un, tu sais, moi, je le dis tout le temps. À chaque fois que Bernard Drainville ou Éric Duhem est en entrevue, je le dis, ça a été mes collègues autrefois à la radio, là.
Oui, exactement.
Il faut cette transparence-là. Ce
ouais,
que tu fais.
Il faut cette transparence-là. Julie, qu'est-ce qui fait que tu sautes à nouveau dans le bateau de la politique?
Il y a quelques éléments. J'en ai exprimé trois ce matin qui sont les principaux. Le premier, c'est un peu ma déception face à ce qui se passe en termes économiques. Hein? Mm-hmm. Je suis venue souvent parler, oui, j'ai travaillé avec le gouvernement, mais j'ai été déçue de voir le manque d'urgence d'agir, le manque d'action du gouvernement, de réaction, mais aussi du PQ dans les orientations économiques. Le deuxième point, c'est notre fierté régionale. On parle peu de la capitale nationale depuis des années. Tout ce qu'on parle, c'est des choses plus ou moins belles. On a avancé, reculé, joué au yo-yo avec à peu près tous les projets de la capitale nationale.
T'as raison, ça fait 14 ans qu'on parle du troisième lien puis du tramway.
Puis, tu sais, à un moment donné, il faut qu'on se remette au centre un peu des priorités. Et finalement, ben c'est Charles Milliard, notre chef lui-même. J'ai rencontré Charles il y a quelques années quand il était à la Fédération des chambres de commerce. On se connaît, on a échangé beaucoup depuis ce temps-là. Je sais qu'il y a une bonne vision qui est là pour les bonnes raisons. Mais aussi, j'aime ça qu'on ait un chef qui est différent, qui est nouveau, qui est peut-être un peu moins connu aujourd'hui, mais on a une campagne électorale qui s'en vient, puis tout le monde a à le découvrir dans les prochains mois. Donc, c'est à peu près l'essence de ma motivation.
Charmillard était vu comme quelqu'un, je pense que pour ses bonnes intentions, était en politique. Là, ça commence des fois à un peu déraper, la politique étant. Il y en a qui lui reprochent la façon dont il s'exprime, la façon dont il pose des argumentaires, etc. Comment ça se vit, ça?
Bien, la politique, c'est jamais facile, puis il va toujours avoir des gens pour nous critiquer. Je pense que ce qui est important de regarder, puisque la population va juger en bout de ligne, c'est qui les inspire le plus, qui leur amène une vision qui est intéressante. Puis oui, Charles, c'est un gars super brillant, qui a beaucoup de connaissances, il s'exprime bien. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. On a une campagne électorale, on va aussi avoir une équipe. À Québec, là, on est rendu trois avec moi, avec René Verret, Farnell Morissette. On est en train de se bâtir quelque chose d'assez solide. Puis je pense qu'il faut aussi être patient, là. C'est dans 4 mois et demi, l'élection.
Les priorités pour la capitale nationale que le PLQ veut mettre de l'avant?
Mais c'est sûr qu'on est au début, là. On est en pré-campagne, donc il y a des choses qui vont être importantes de regarder. Mais la première chose, c'est de se remettre au centre des priorités. Puis ça a l'air de base, là, mais...
Ça a l'air du vent.
Non, mais attends un peu, Pascal. Faut juste le ramener à certains éléments. On a une loi sur la capitale nationale qui dit qu'il faut que l'ensemble des grandes réunions importantes se tiennent à Québec. La CAQ n'a jamais respecté ça. On est toujours à Montréal. Là. Moi, il y a 3 semaines, j'étais à Montréal avec Christine Fréchette puis Bernard Drainville puis tous les groupes économiques pour parler d'économie. Quand Emmanuel Macron est venu au Québec, c'était où? C'était à Montréal. Toutes ces grandes rencontres-là, de remettre notre statut de capitale nationale, c'est important. On a combien de ministres à Québec en ce moment? On a 2. Combien il y en a à Montréal? Sur un total de 2 députés caquistes, il y a 2 ministres. Il y a 100% des députés caquistes de Montréal qui sont au Conseil des ministres, sans compter qu'il y en a plein dans la grande région de Montréal. Il faut qu'on prenne en considération certaines spécificités. C'est, quand on dit ça, c'est aussi de réaliser des projets. Aujourd'hui, j'étais au Centre Intact Assurance ce matin. C'est à peu près le dernier grand projet qui s'est réalisé dans Jean Talon, qui s'est réalisé dans un temps qui faisait du sens. Ça a été annoncé, c'est un projet de la ville qui a été financé par le gouvernement, qui a été annoncé en 2017, qui a ouvert ses portes en 2020, qui fonctionne bien, qui a apporté beaucoup de choses pour la population. Il faut se remettre là-dessus. On a évidemment la mobilité. Je ne peux pas venir ici puis vous dire
impossible.
Qu'on ne parlera pas de mobilité. Mais la mobilité, là, ce qu'on a fait pendant les 8 dernières années sur à peu près tous les projets, que ce soit la tête des ponts, le tramway, le troisième lien, c'est de l'aller-retour sans arrêt. Puis on a perdu beaucoup de temps. Puis ce temps-là, ça se traduit par des coûts plus importants. Il faut qu'on arrête les tergiversations, excusez-moi, puis qu'on s'enligne, puis qu'on règle ces enjeux-là.
Fait que ça fait partie des priorités. On sent clairement que vous avez un genre de petit groupe scule qui se forme à Québec avec des gens d'influence, faut le dire.
Oui, vraiment.
Vous avez des gens de Takabi qui se joignent au Parti libéral, mais tout le monde est à la recherche de candidats en ce moment. Ça doit jouer du coude. Comment ça se passe en interne? Avez-vous des secrets de coulisses?
Bien, moi, je ne suis pas impliquée là-dedans, mais je peux vous dire que De mon côté, ça a été assez simple. Ma décision a été assez simple et c'est juste le PLQ qui m'a approché. Je pense que tout le monde savait un peu mes allégeances politiques. J'ai quand même travaillé 12 ans en politique dans le passé. Mais c'est sûr que c'est un défi pour l'ensemble des partis de trouver des candidats en ce moment. On est à un moment où que les sondages sont un peu dans tous les sens. Tout le monde veut être prêt en même temps. Ce que je vous dirais cependant, c'est que en ce moment, je pense que du côté de Charles Milliard, on a une équipe vraiment solide qui se bâtit. Oui, à Québec, mais aussi ailleurs. On a annoncé la docteure Cécile Tremblay, notamment dans Laval. On a Pierre Cossette, l'ancien recteur l'ancien doyen et recteur à l'Université de Sherbrooke, qui se présente, et médecin qui se présente dans ce coin-là.
Fait que ça ne chicane pas entre partis là, pour tirer un petit peu sur des candidats?
Bien, moi, je ne le vois pas en ce moment. Je ne dirais pas que ça... Je ne vous mentirai pas, je ne le sais pas.
Qu'est-ce que tu reproches à Pascal Paradis, qui est le député présentement dans Jean Talon?
Mais moi, Pascal, je le connais depuis longtemps en passant. Là, j'ai été sur le CA d'Avocats sans frontières lorsqu'il le dirigeait. Ça a été mon client quand j'étais en consultation chez TAC. C'est que je connais Pascal depuis longtemps. Est-ce que je lui reproche quelque chose personnellement? Pas vraiment. Mon enjeu, c'est avec le PQ en ce moment.
Qu'est-ce qui te dérange chez le PQ?
C'est quoi la seule priorité du PQ en ce moment? Puis c'est plate à dire. On dirait qu'on retourne dans le temps. Back to the future.
Oui, on vient en campagne du oui puis du non.
Mais c'est ça la priorité. Moi, je l'ai exprimé ce matin. Là, j'ai essayé de rencontrer PSPP pendant plusieurs mois quand j'étais chez Manufacturier Exportateur du Québec. Zéro rencontre. Refus de rencontrer le secteur le plus affecté par les tarifs douaniers. Le secteur qui fait vivre nos régions. Mais pendant ce temps-là, on lit dans le journal qu'il rencontre une fois par mois à peu près le chef séparatiste en Alberta.
C'est pour ça que vous disiez au début de quand vous êtes présenté en politique, c'est parce que le PQ vous avait déçu. Ça fait partie de ça?
Ça fait partie des raisons. Moi, je ne peux plus regarder le train passer puis pas sauter dedans. Je regardais ce qui se passait, la CAQ qui, oui, Mme Fréchette, elle écoute beaucoup, mais entre écouter puis avoir des résultats, c'est deux choses différentes. Puis après ça, de l'autre côté, le PQ qui n'a aucun intérêt à parler d'économie en ce moment, que la seule priorité, c'est ça. Ce matin, Pascal Paradis, d'ailleurs, était en point de presse à 9 h.
Oui.
Mon point de presse, c'était à 9 h 30.
Oui, bien c'est ça, j'ai compris. Je ne suis pas un si vieux routier des médias, mais j'ai compris le timing.
Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un peu d'inquiétude de leur côté. Mais une fois que je dis ça, c'était quand même encore un point de presse pour chialer sur la relation avec le Canada, pour dire qu'il fallait que ça ne marchait pas, qu'on était dans une fédération qui ne marchait pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, les gens sont un peu tannés de ça. On est dans une fédération, on est dans un contexte économique où c'est pas le temps de tout bouleverser. Puis on a des préoccupations un petit peu plus terre-à-terre. Là. Les enfants, l'état de leurs écoles, est-ce qu'on a accès à un service de garde? Comment ça se passe au jour le jour? Je pense qu'il faut revenir à ça, puis c'est là-dessus qu'on va se concentrer, nous, de notre côté.
Gilles White, je termine l'entrevue en t'invitant ici sur les ondes de Boulevard 101. Pascal Paradis a déjà dit oui, fait qu'il va avoir un débat durant la campagne électorale.
Bien, ça va me faire plaisir de revenir. Tu sais comment j'accepte tout le temps volontiers vos invitations.
Magnifique. Je te souhaite un bon succès dans cette campagne électorale. Julie, merci de te lancer en politique. Je trouve que vous avez toujours bien du guts de tout laisser tomber pour d'aider la société. Évoluer. Merci beaucoup.
Merci.
Salut. On fait une courte pause et on revient avec la fin de l'émission, une émission d'En Jase.
En Jase jusqu'à 14.
Ah, c'est déjà la fin de cette belle émission d'En Jase. Il est 13h55 minutes. Comme d'habitude, le retour de Gravel va suivre avec Denis, Véro et Audrey. Restez à l'écoute. C'est toujours une émission très, 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 très intéressante. Nous, on va se revoir demain avec à nouveau un caucus avec Antonine Iaccarini à compter de midi, avec un Rémi Villemur aux alentours de 13h10, toujours une chronique très percutante, puis plein de jasettes puis d'entrevues liées à l'actualité. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal Sévin?
C'est un rendez-vous demain midi.
Ah, on va avoir Alex Laramain parce que le Canadien, ça commence jeudi.
Demain.
On va être obligé de jaser de tout ça avec Alex Laramain
demain
à l'émission.
Vous n'avez pas de break.
Ah, ça va être le fun. En attendant, pour les amateurs de hockey, ce soir, je le rappelle, c'est les Golden Knights de Vegas qui sont en visite au Colorado. Le match est à 20h sur TVA Sports. L'excellent défenseur Carl Makar de l'Avalanche du Colorado sera absent pour le premier match. Pascal Sévin, on se dit à demain.
À demain.
À demain, tout le monde. Merci d'être à l'écoute de Boulevard 102.1. Le retour de Gravel suit à l'instant.
Gravel dans le retour débarque dans quelques